Vous êtes sur RTL.
RTL. 22h minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Bonsoir, c'est Sabine Calégari à votre écoute. Comment ne pas évoquer ce soir notre fête nationale et la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. On parle beaucoup de liberté et d'égalité dans le débat public, mais peut-être moins de fraternité. De manière naturelle et directe, la fraternité est au cœur de notre émission « Parlons-nous ». Et depuis que je suis avec vous pour l'animer, je suis frappée de voir que le plus grand nombre d'appels nous arrivent quand les personnes qui témoignent ont besoin d'aide et de soutien. À nouveau jusqu'à minuit, l'antenne de RTL est à vous au 09 69 39 10 11. Paul et Colin sont prêts à vous accueillir au standard. Et pour réagir à ce que vous entendez, pour partager, réconforter, c'est par SMS au 64 900 code RTL ou sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous. Marc Bisset veille à la réalisation, nous pouvons commencer. Et nous accueillons Robert. Bonsoir Robert.
Bonsoir Sabine, bonsoir, merci de m'accueillir à l'antenne.
Avec plaisir. De quoi souhaitez-vous nous parler Robert ?
Alors, il m'est arrivé il y a trois, quatre mois, c'est un immeuble qui est tombé sur moi, j'ai eu un accident vasculaire cérébral, AVC,
oui.
en pleine rue, dans la ville où j'habite. Et depuis, les gens qui ont eu ça le savent très bien, oui. ça ne va pas. Il y a une immense fatigue,
oui.
Une perte de l'écriture.
Oui.
Mais surtout une fatigue énorme.
Ah.
Alors
là,
après
vous,
ça,
vous êtes oui, à quelques pardon. Mois après, vous êtes après, à quelques mois après l'accident, c'est ça que vous dites.
Oui, quatre mois à peu près.
Oui.
Quatre mois. Donc j'ai fait une semaine d'hôpital, à l'hôpital, et ensuite bon, je suis rentré chez moi, et on est à quatre mois de l'accident lui-même.
Oui.
Voilà. Alors ce que je n'arrive pas à admettre au fond de moi-même, c'est d'être limité, sa limitation.
Et oui.
Voilà, c'est ça que j'arrive pas à admettre. Quoique je continue à travailler, hein, je travaille, mais je suis très très fatigué et je suis en rééducation.
Vous pensez que la fatigue vient aussi de la rééducation parce que ça demande un effort physique et mental énorme de récupérer après un AVC, enfin de faire des progrès et de tenter de regagner certaines fonctions. Vous pensez que la fatigue peut venir de là ?
Alors. Oui, en partie oui, mais surtout, il me semble, hein, moi,
oui.
C'est ce que je ressens, c'est la limitation, être limité.
Oui.
Voilà. Mais ça, oui. Je ne supporte pas.
Mais oui, c'est vous êtes dans la perte, en fait. Vous avez perdu des choses que vous aviez avant.
Voilà.
Et là, pour l'instant, vous le vivez comme un moi radical.
C'est ça.
Dans
exactement.
Votre vie.
C'est ça. J'arrive pas à m'y faire. Quatre mois après, j'arrive pas à, j'ai perdu un peu de la parole, hein. Bon, d'écriture aussi.
Pourtant, vous semblez vous exprimer très bien. Là, vous
non,
écoutez.
J'ai un peu perdu, un tout petit peu, mais par contre, j'ai perdu l'écriture. Ça va revenir, hein.
Oui.
Je pense que ça va revenir. Et puis, il y a le fait de travailler au ralenti, de s'arrêter, de faire des pauses, tout ça, c'est très, très difficile.
Oui.
Très difficile.
Là, pour l'instant, Robert, vous êtes en arrêt maladie, vous.
Alors,
comment
je continue à travailler.
Voilà.
Moi, je suis en indépendant.
Oui.
Donc, on a été très impacté par la crise sanitaire.
Ben oui.
Et en plus, donc, il y a le fait que je travaille un peu au ralenti, en fait. Hein.
Vous êtes dans un métier intellectuel, manuel.
Oui. Oui, intellectuel, oui. Je suis indépendant.
Oui.
Mais bon, je suis plutôt quelqu'un d'actif, quelqu'un qui court, etc.
Oui.
Et là, j'arrive plus. Enfin, j'y arrive moins, plutôt. J'y arrive moins.
Est-ce que ça met en danger votre activité ou c'est dans un rapport à vous-même que c'est difficile à vivre ?
Ah non, c'est par rapport à moi-même.
Oui.
J'arrive pas à me lier. C'est une limitation que je supporte pas.
Oui, c'est une souffrance morale. Parce que parfois, vous pourriez aussi avoir des inquiétudes pour votre activité, enfin des inquiétudes concrètes. Mais là, c'est essentiellement, vous dites, une souffrance morale.
Oui, énorme, très important. Et alors, les médecins me disent qu'on n'y peut rien. On n'y peut rien, il faut attendre que ça passe, en quelque sorte.
Oui, donc face à des pensées qu'on entend par on n'y peut rien, c'est que on ne peut pas faire sans le temps. Ça, c'est vrai, parce que c'est un corps physique, donc avec des fonctions physiques. Mais on n'y peut rien, c'est peut-être un peu radical comme façon de s'exprimer, non ?
Ben, il n'y a pas de médicament, ça veut dire qu'il n'y a pas de médicament à prendre.
Ils n'y peuvent rien, les médecins.
Ils n'y peuvent.
Ce qui, voilà. Alors, on va pas, évidemment. Ben oui, parce que, mais là, bon, c'est normal, hein, c'est humain. Chacun a tendance à parler de son propre point de vue. On n'est pas là pour critiquer les médecins. Mais effectivement, quand un médecin vous dit on n'y peut rien, c'est que les ressources de la médecine, à un moment donné, sont limitées. Enfin, en revanche, vous n'y pouvez pas rien parce que le travail, enfin, vous devez l'éprouver chaque jour. C'est vous qui le faites pour récupérer vos fonctions.
Oui, mais j'arrive pas à m'y faire. Si vous voulez, j'arrive pas à mentaliser le fait que je sois diminué, en fait, même si c'est temporaire. Hein, c'est temporaire.
Alors justement, mais... le fait que ça soit temporaire, est-ce que ça vous aide à concevoir la chose, ou est-ce que dans votre tête vous avez l'impression que vous pourrez être définitivement limité? Comment vous voyez les choses?
Non, définitivement non. Je vois ça plutôt comme un très mauvais moment à passer.
Oui. Donc déjà, vous avez de l'espoir si vous dites ça.
Oui, oui. Oui, parce que j'ai été secouru très rapidement.
Oui.
Très rapidement, fort heureusement. Et on m'a fait on a nettoyé le vaisseau bloqué, en quelque sorte.
Oui.
Voilà, ce qu'on appelle une thrombolyse. Voilà. Oui. Donc ça a été fait très rapidement, qui a permis de limiter les dégâts, en quelque sorte. Hein.
Oui. Oui, là, effectivement, vous avez, c'est le meilleur cas possible. La prise en charge très rapide. Vous avez passé assez peu de temps à l'hôpital.
Une semaine, en tout. Hein.
Oui, oui, oui. Donc, c'était plutôt un bon pronostic. Si vous êtes sorti au bout d'une semaine et que vous avez commencé tout de suite, j'imagine, la rééducation, c'est ça ?
Oui, immédiatement.
Vous êtes bien entouré de ce point de vue-là ?
Oui, il y a une orthophoniste. Il y a un kinésithérapeute,
oui.
Et un neurologue que je peux voir quand je le souhaite.
D'accord. Oui. D'accord. Donc tout est en place.
Donc je suis assez bien entouré, mais ce qui me gêne, c'est cette fatigue, arrêter, recommencer, tout ça. C'est alors les médecins me disent que ça va revenir.
Voilà. Oui. Alors ça, c'est la première question, Robert. Est-ce que vous êtes dans l'intime conviction que ça va revenir ? Est-ce que vous avez cette confiance-là ?
Pas vraiment.
Alors qu'est-ce qui empêche que vous fassiez confiance ? Parce que je suppose que c'est pas pareil du point de vue d'une épreuve morale de se dire qu'on est dans une épreuve transitoire. Effectivement, comme vous le disiez, c'est un mauvais moment à passer, et de se dire que on est dans une vie diminuée. Donc c'est pourquoi je vous pose cette question. Qu'en est-il de votre espoir à vous et de votre confiance dans la guérison au fond de vous ?
J'ai une forte tendance à à ne pas trop supporter les épreuves, les obstacles, le temps qui passe.
Oui.
Ça, je le sais, ça. Hein. Je sais que je suis plutôt fonceur et... Vous voyez ? Donc, j'ai tendance à être pessimiste un peu.
En fait, vous dites que c'était déjà une faille ou une fragilité morale chez vous avant l'accident. Donc, au fond, le fait que vous ayez du mal à faire face à cette épreuve... Même si vous avez un certain espoir de récupérer, c'est parce que ça vous met dans une difficulté qui était déjà votre talon d'Achille avant, c'est ça ?
C'est exact. C'est vrai. Alors, ça, c'est exact.
Alors, est-ce que vous voulez bien nous parler de vous avant, c'est-à-dire quel était votre caractère, pourquoi vous étiez fonceur et pourquoi vous nous dites que c'était difficile pour vous de faire face à des obstacles et des épreuves ?
Alors, tout ça, c'est une longue histoire, hein. Mais j'ai tendance à vouloir gagner. J'ai une mentalité un peu de gagneur, si vous voulez.
Oui.
Donc tout ce qui est obstacle, tout ce qui vient à l'encontre de ma route, en quelque sorte, je le prends mal.
Oui.
Je le prends mal.
Comme vous le prenez comme quelque chose qui vous met en situation de défaite.
Voilà, exactement.
Et quand vous dites, donc vous êtes entré assez tôt dans un esprit compétitif, est-ce que votre histoire vous a amené à vous comparer, à entrer en rivalité ? Est-ce qu'il y a eu des choses difficiles de ce point de vue-là ?
Oui, tout à fait.
Vous
ça,
avez...
c'est très, très clair. Hein. Il y a une rivalité, une compétition, une volonté d'être le meilleur, en quelque sorte, qui est déjà très forte hein, avant.
Et ça, bon, peut-être vous ne souhaitez pas, si c'est trop personnel, en parler à l'antenne, mais est-ce que vous identifiez pourquoi il y avait ça dans votre vie ? Est-ce que vous, entre vous et vous, vous le savez ? Pourquoi il y a
ça ? Oui, parce que, en deux mots, hein, je ne veux pas trop rentrer dans les détails.
En tout cas, c'est comme vous voulez, vous. Moi, je vous écoute,
c'est
en fonction de ce que vous souhaitez dire.
Non, j'ai eu des parents qui m'ont totalement dévalorisé.
Ah !
Oui, ça remonte à loin, hein, maintenant.
Oui.
Ça remonte à loin, mais ça joue sur mon histoire personnelle.
Oui. Ils vous ont dévalorisé. Qu'est-ce que vous en avez retenu, vous, comme croyance par rapport à vous-même ?
Ah, que j'étais pas bon et que je devais montrer sans arrêt que j'étais le meilleur, en quelque sorte. D'où cette course à l'infini qui ne se termine pas. Et qui montre, qui tend à démontrer à qui que je suis le meilleur, ce qui n'est pas vrai, bien entendu. Je suis pas le meilleur, mais il y a cette idée comme quoi je dois être le meilleur de partout.
Donc c'est une forme de compensation finalement. Pour vous, l'antidote que vous avez trouvé à la dévalorisation parentale, c'est un esprit de compétition qui vous mettrait toujours en haut du tableau.
Et voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça, parce que je vous ai dit pourquoi, je ne peux pas en dire plus ce soir.
Comprends.
Mais quand on a été dévalorisé par ses propres parents, on en garde quand même des séquelles importantes.
Vous avez raison d'insister quand vous dites par vos propres parents, parce que quand nous sommes enfants, nos parents, c'est la parole divine, c'est la parole de la vérité absolue. Donc même si nous avons nos défenses comme enfants, qu'on peut prendre un petit écart en se disant que ce n'est pas forcément vrai, il y a une part de nous qui intègre cette parole-là, presque la télécharge d'une certaine façon. Et ensuite, dans un certain lieu de notre esprit, ça devient comme un programme automatique. Tu es nul, tu es mauvais. Et vous luttez en permanence. Vous avez développé ce qu'on appelle une formation réactionnelle en psychanalyse. La formation réactionnelle, c'est l'antidote psychique. Votre antidote psychique à vous, c'est d'utiliser votre énergie, qui doit être très importante à la base, pour entrer dans une forme de lutte qui vous hisse à la position du meilleur, qui à ce moment-là vous rassure et sert à contredire la parole parentale que vous avez intégrée dans votre esprit.
Vous avez tout dit. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et d'où l'idée de refuser les limites, de ne pas prendre en compte toujours la réalité. Ça crée une forme de comment dire ?
De course en avant, comme vous disiez tout à l'heure.
Oui.
Parce que on comprend bien, Robert, que pour vous, si vous acceptez la limite, ça vous renvoie pour l'instant de l'autre côté du balancier. C'est ou bien je suis le meilleur, ou bien je suis le bon à rien que décrivaient mes parents. Pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe dans votre esprit.
Exactement.
Inconsciemment. Pour part inconsciemment. Donc on comprend que pour vous, accepter la limite, il n'y a pas de position au milieu. Ça vous envoie... L'alternative, c'est si tu n'es pas le meilleur, tu es l'être inférieur qu'on a décrié, qu'on a nommé comme tel quand vous étiez enfant.
Exactement ça.
Et votre AVC, finalement, vous met face à la plus grande difficulté psychique de votre vie. Elle vous met face à votre faille.
Exactement. Surtout que je ne m'y attendais pas. Hein. Je veux dire, il y avait des signes avant-coureurs quand même. Hein.
Ah bon ? Comme quoi, par exemple ?
Il y avait des signes. Je ne me sentais pas bien, quelquefois. Vous voyez ?
Oui,
vous aviez très bien.
Des maux de tête, des choses comme ça ?
Des vertiges, plutôt.
Des vertiges, plutôt.
Des vertiges qui sont un peu accentués avec l'AVC et qui sont... Oui, il y avait des signes avant-coureurs, on peut dire ça. Mais, comme d'habitude, je n'en tiens pas compte.
Oui, vous êtes entré dans la logique que vous connaissez, qui est celle du combat pour surmonter immédiatement, et vous prouvez que vous continuez à avancer quand même.
Voilà, exactement. Ben oui. C'est exactement ça.
Vous savez, ce qui vous arrive, j'ai été frappée par les termes que vous avez employés dès le début de votre témoignage. Vous avez dit qu'il y a un immeuble qui vous est tombé dessus, donc c'est une image extrêmement violente. Enfin,
oui.
Pour vous, l'accident, ça a été quelque chose de traumatique en soi. C'est la catastrophe absolue dans votre vie. En fait, ça vous met aussi, dans la mesure où ça vous met face à votre faille psychique, ça m'évoque quelque chose qui sont dans des textes spirituels anciens. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est les manuscrits de la Mère Morte. Il y a une expression que je trouve très belle et dont je parle parfois à mes patients au cabinet. Ça s'appelle la nuit obscure de l'âme. Et la nuit obscure de l'âme, c'est notre épreuve de vie la plus difficile, celle qui nous met parfois face à notre plus grande fragilité. Mais si nous arrivons à la surmonter, si nous évoluons, parce que c'est un enjeu d'évolution, nous en tirons une force qui nous rend, alors pas indescriptible, c'est pas une question d'être des robots, mais qui nous donne une force vitale, une confiance qui va nous porter pour le reste de notre vie. Et au fond, dans ces textes-là, moi, je trouve ça très beau parce que c'est assez représentatif de ce qui peut se passer dans une vie humaine. Si nous traversons notre nuit obscure de l'âme, que nous trouvons des ressources, que nous faisons face à notre plus grande faille et que nous guérissons, ensuite on en tire une force de vie qu'on inconnu auparavant. Ben, je trouve que c'est un peu ce qui vous arrive, c'est-à-dire que cet accident, alors on ne va pas essayer de trouver des significations, c'est assez mystérieux, mais votre accident vous a mis face à votre plus grande peur, votre plus grande faille. Donc il me semble que là, pour vous, Robert, c'est une occasion d'évolution. Est-ce que, au-delà de la rééducation, ce n'est pas l'occasion pour vous de sortir d'un système psychique purement compétitif pour entrer dans une autre façon de faire avec le monde, les choses, les gens?
Oui, je pense que oui. Déjà par la force des choses.
Oui.
Je suis moins opérationnel.
Déjà, vous
ne
pouvez pas faire autrement.
Voilà, je ne peux pas faire autrement. Et puis oui, c'est l'occasion peut-être de réfléchir à ce qu'a été ma vie jusqu'à présent.
Oui.
C'est-à-dire une fuite en avant, enfin une course en avant. Et peut-être d'envisager les choses d'une autre façon.
Oui, c'est l'occasion parce que si par expérience au cabinet, il arrive des accidents très graves dans la vie d'une personne, évidemment que c'est une catastrophe, il aurait mieux valu que ça n'arrive pas, mais ce sont aussi parfois des coups d'arrêt à un système de fonctionnement moral, psychique, relationnel dans lequel on est enfermé. Et à l'occasion de cet accident, la personne a l'opportunité de guérir ce qui n'avait pas été guéri et d'entrer dans un fonctionnement psychique plus élaboré qui la sert davantage pour la suite de sa vie. Parce que c'est épuisant l'énergie du combat comme ce que vous avez mené toute votre vie.
Oui. Et je vous en ai donné les causes. Hein. Je vous en ai donné les causes.
Oui, j'ai bien entendu.
Oui, c'est peut-être l'occasion de réfléchir à autre chose, à une autre façon de voir les choses.
Et ça, si vous décidiez de le faire, vous savez, c'est l'occasion d'envisager une thérapie peut-être, parce que la thérapie, c'est pas toujours pour des circonstances extrêmement aiguës, où on a des symptômes brutaux. Parfois, la vie nous présente des épreuves ou des occasions de réfléchir à ce qui s'est passé avant et de réfléchir à ce qu'on n'a pas guéri ou à des fonctionnements qui ne nous servent plus forcément autant aujourd'hui. Ça peut être ça aussi, ce qui emmène en thérapie. Donc peut-être que pour vous, si vous l'envisagez sous cet angle, ça pourrait vous aider. Est-ce que vous y avez pensé déjà?
Oui, tout à fait. J'y ai pensé et je vais vous donner un autre exemple.
Oui.
À cause de l'âge, si vous voulez, je perds l'ouïe. Je perds l'entente, si vous voulez. J'entends moins bien avec l'âge. Hein.
Oui.
C'est insupportable pour moi.
Ah,
c'est
insupportable
d'être diminué. Bon, j'entends encore, hein, attention. Mais il y a une diminution de l'ouïe et à chaque fois, ça m'énerve terriblement.
Et oui, parce que ça vous remet dans cette logique de victoire-défaite. Pour vous, il y a les victoires et les défaites et pas d'autre alternative. Donc c'est une défaite de plus pour vous de perdre l'ouïe.
Voilà, exactement.
Mais oui.
C'est dans le droit fil de ce que je vous disais avant.
Oui. Mais c'est intéressant parce que vous avez une certaine lucidité. Enfin, quand vous l'évoquez, vous semblez savoir ce qui vous est arrivé et quelle est votre, votre fragilité par rapport à ça. Donc aussi, si vous traitez ça dans les suites de l'AVC, c'est-à-dire si vous traitez le problème psychique que vous avez, cette combativité qui ne vous sert pas toujours... À l'occasion de l'AVC, ça peut être aussi l'occasion de le traiter pour tous les autres domaines de votre vie. Souvent, quand on guérit quelque chose dans un domaine, ça se guérit partout. Et si vous arrivez à entrer dans un autre fonctionnement que celui du combat, ça ne veut pas dire que vous ne saurez plus combattre quand il y a besoin. Vous allez toujours la garder, cette ressource. Mais si vous savez faire autrement, ça pourra aussi vous permettre d'aborder mieux d'autres choses que la vie peut vous amener, comme vous dites, des inconvénients liés à l'âge ou peut-être d'autres obstacles à un moment donné.
Oui, oui, vous avez raison.
Alors, vous avez, il y a beaucoup... Oui, vous vouliez, vous vouliez dire quelque chose? Oui, non, je vois arriver beaucoup de messages de soutien pour vous, Robert. Alors, quelque chose que vous dit Jacques. Il vous dit, Robert, après un AVC, il faut beaucoup de patience pour récupérer la plénitude de ses moyens. La précision de l'écriture est longue à retrouver. Donc, il dit qu'on la retrouve. Vous semblez plus choqué par votre accident et impatient de retrouver votre pleine efficacité au travail. Soyez confiant, faites confiance à vos ressources internes. Tous mes voeux de rétablissement.
Très aimable, très gentil. Oui. C'est très gentil.
Jacques a l'air de connaître, de savoir de quoi il parle quand il parle de récupération.
Donc on récupère l'écriture, hein, d'après ce que dit...
Voilà, il dit que la précision de l'écriture est longue à retrouver. Donc si on le lit au pied de la lettre, c'est qu'on la retrouve.
D'accord. Très bien. En tout cas, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont appelé.
Oui.
On ne peut pas citer tous les messages. Hein.
On les cite. Voilà, c'est qu'en fait, celui de Jacques est assez complet, donc il reprend beaucoup de termes et beaucoup de personnes vous souhaitent un bon rétablissement, vous dit de ne pas perdre courage, de surtout pas vous désespérer, que le cerveau fait son travail. Donc, il y a. Enfin, tous les éléments du message de Jacques sont aussi démultipliés avec un certain nombre de personnes. En tout cas, c'est que les personnes qui semblent avoir eu cette expérience disent qu'on récupère.
Écoutez, je tiens à les remercier beaucoup du fond du cœur.
Peut-être ce que je peux ajouter, Robert, pour soutenir votre confiance, c'est qu'en ce moment, les neurosciences progressent énormément. On est vraiment depuis le début des années 2000, où les découvertes arrivent très vite. Pendant longtemps, on a cru que sur le plan neuronal des cellules du cerveau, il pouvait y avoir des dommages irréversibles. Et plus les recherches avancent, plus on se rend compte que les capacités de guérison cellulaire sont énormes, beaucoup plus importantes qu'on ne pensait. Donc chaque fois que des découvertes nouvelles arrivent, c'est plutôt dans le sens de capacité de récupération qu'on pensait ne pas avoir et qu'on a. Donc là, il y a vraiment l'idée d'un organe extraordinaire, le cerveau, qui a le potentiel de s'auto-guérir. Simplement, pour vous dire comment ça marche, c'est que ce sont des groupes de neurones qui remplissent les tâches de notre vie. Et quand des circuits ont été endommagés, il faut les recréer. Les recréer par une démarche de concentration et de conscience, de concentration sur les mouvements que vous réapprenez. Et ensuite, au fur et à mesure que vous réapprenez ces mouvements, les circuits neuronaux s'inscrivent dans votre cerveau et ensuite, plus une fois qu'ils sont inscrits, plus ils sont utilisés, plus ils sont investis, plus ils se remettent à fonctionner naturellement et rapidement.
D'accord. C'est ce que l'orthophoniste appelait, je crois, la plasticité neuronale, il me semble.
Exactement, c'est la plasticité neuronale, tout à fait. C'est-à-dire, il n'y a jamais un circuit unique et sur le mode, ça ne se passe pas sur le mode un circuit brûlé, ça ne revient pas. C'est que quand un circuit est endommagé, les neurones, en fait, c'est des cellules qu'on appelle, enfin, qu'on peut dire qu'elles sont extrêmement sociables. Elles ne demandent qu'une chose, c'est se connecter à d'autres neurones pour former des ensembles complexes à même d'assumer toutes les tâches de notre vie. Donc ça se fait tout le temps, c'est cette plasticité-là dont parle votre orthophoniste. Simplement, ce qu'on commence à savoir du côté des neurosciences, c'est que ce qui permet à nos neurones de se connecter, de socialiser et de s'assembler, c'est une intention qui est du côté de notre conscience. C'est-à-dire que votre conscience a la faculté de décider ce sur quoi elle se concentre. Et quand vous êtes en rééducation, plus vous allez mettre de votre conscience dans votre mouvement. Par exemple, si vous dites « j'envoie mon esprit au bout de mes doigts » si vous apprenez à réécrire, et vraiment vous focalisez votre conscience, votre attention sur le bout de vos doigts, c'est une aide considérable pour que les circuits neuronaux se constituent et se renforcent.
D'accord, d'accord. Ça, outre oui. La rééducation des fines, ce qu'on appelle les mouvements fins de
oui.
La main,
oui.
Il y a aussi ce travail inconscient. Oui, je comprends.
Oui, c'est ce travail mental. Vous savez, les sportifs de haut niveau savent ça. Par exemple, un danseur à l'opéra, un sportif de haut niveau, quand il doit faire un geste extrêmement pointu, il utilise beaucoup son cerveau. Il sait que s'il met son mental dans le bout de son pied, dans l'endroit qu'il doit travailler, dont il exige une performance, ça crée des circuits de neuronaux et ça permet à la performance de s'installer beaucoup plus vite et de façon plus stable. Donc ça, vraiment, n'hésitez pas à travailler avec votre concentration, avec votre mental. Chaque fois qu'on entend parler de guérison dite miracle, enfin, quand on dit un miracle, c'est qu'on ne sait pas forcément l'expliquer tout de suite, on voit que c'est une technologie intérieure. C'est des personnes qui ont su focaliser leur conscience sur l'endroit qui a besoin de guérir pour que les circuits se fassent.
D'accord, entendu. Très bien. Donc, je vous remercie beaucoup, en tout cas, pour votre écoute.
Avec grand plaisir, Robert, d'autant que ce que vous avez, l'AVC, c'est vraiment quelque chose qui peut toucher beaucoup de personnes. Vous avez insisté sur l'importance d'être vigilant pour être secouru le plus vite possible.
Oui.
Et ensuite, on sait que c'est un parcours où il y a des choses à réapprendre, mais avec des issues, et on ne peut que vous souhaiter de sortir en pleine possession de vos moyens, avec en plus des fonctionnements psychiques moins coûteux.
Oui, tout à fait.
Oui.
Merci beaucoup, en tout cas. Je vous remercie beaucoup. Et je remercie tous les auditeurs qui ont appelé également.
Ah oui, là, ils sont bien là. Oui, je vois leur message et je les lis en même temps que je vous parle. C'est la raison pour laquelle je m'interromps un peu. Beaucoup de messages de soutien pour vous soutenir dans votre convalescence et la suite de votre vie.
Merci beaucoup, merci. Je vous souhaite une bonne soirée.
Vous également, Robert. Au revoir.
Au revoir.
Sabine Calégari sur RTL. Parlons-nous. 22h minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Il est 22h36 sur RTL et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant. C'est Parlons-nous, l'émission qui vous invite à poser en direct toutes vos questions de vie. Nous venons d'entendre un très beau témoignage de Robert qui nous parle de son trajet, de sa trajectoire pour récupérer après l'AVC et des questions morales que ça mentale, que ça pose. Si vous aussi vous souhaitez nous parler de quelque chose qui vous soucie, qui vous tourmente, vous interroge, le téléphone vous le connaissez, 09 69 39 10 11 et vous pouvez toujours réagir par SMS 64 900 code RTL. Et nous accueillons Geneviève. Bonsoir Geneviève.
Oui, bonsoir Sabine.
Je vous écoute. De quoi souhaitez-vous
parler ? Oui, je vous appelle. Je voudrais vous parler de ma fille.
Oui.
Donc, je suis très inquiète.
Oui.
Elle a 17 ans. Ça fait un an qu'elle sort avec un garçon donc, qui a 21 ans maintenant.
Oui.
Et je pense que c'est un manipulateur qui en fait ce qu'il veut.
Ah.
Voilà. Et il l'empêche de voir des garçons, notamment. Il
oui.
est très jaloux.
Oui.
Voilà, j'ai l'impression qu'elle refuse les invitations aux soirées qu'elle reçoit de son côté. Et puis, voilà, je suis très inquiète. Et puis là, récemment, elle m'a dit que ça n'allait pas bien dans sa tête, qu'elle avait besoin de parler à quelqu'un, un psychologue.
Oui.
Et puis, donc, elle me disait qu'elle avait l'impression d'être envahie par le diable, quoi, rien que ça.
Oui.
Et du coup, on est allé voir la maison des adolescents.
Oui.
Elle a vu un infirmier psychiatrique avec qui elle a discuté, quoi.
Oui.
Mais,
ça, c'était une consultation d'urgence ?
Enfin, semi-urgence, parce que ça a été 3 ou 4 jours après.
D'accord.
Voilà, et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, ce garçon, ben, je lui en avais parlé déjà au mois d'octobre, je m'étais aperçue de cette jalousie maladive.
Comment ? Et puis, oui. Elle se confie à vous, votre fille ? C'est par elle que
oui.
vous savez
elle
ça ?
Oui, elle me parle beaucoup.
Donc, heureusement, elle vous parle.
Oui, et du coup, au moins, ce qui s'est passé, c'est que récemment, en fait, il l'a quitté. Mais il l'a quitté pendant 5 ou 6 heures, quoi, un après-midi. Puis dès qu'il lui dit de revenir, eh ben elle revient. Et c'est là que je lui dis, mais c'est un manipulateur, il fait de toi ce qu'il veut. Parce que quand il l'a quitté, eh ben elle était très très mal.
Et oui. Puis, c'était la première rupture entre eux ?
Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'une fois il est parti, je l'ai vu, ma fille, avec les larmes aux yeux. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Puis elle m'a dit, non, mais tout va bien. Puis après, bon, j'ai plus prêté attention, mais j'ai l'impression qu'il l'a fait souvent pleurer. Voilà. Et le fait que, bon, il la quitte et qu'elle revienne dès qu'il est d'accord, c'est pas normal, quoi.
Qu'est-ce qu'elle en dit, elle, votre fille? Comment elle en parle? Dans quels termes elle en parle de cet homme-là?
Là, maintenant, ça y est, elle me dit, de toute façon, il a changé. Dès que si ça recommence, je te promets de partir, d'être libre. Parce que moi, voilà, je lui dis, avec ton père, on te laisse la liberté. C'est pas pour que quelqu'un d'autre te l'enlève. C'est vraiment n'importe quoi. Et
oui.
Voilà, elle me dit non. Elle est complètement amoureuse de lui. De toute façon, c'est son premier grand amour. Et voilà, on ne se rend pas compte, quoi.
Ça fait combien de temps maintenant que leur histoire dure?
Ça fait un an.
Ah oui, elle l'a rencontrée assez jeune, à 16 ans.
Et oui,
enfin,
oui, elle l'a rencontrée.
Jeune pour une histoire, oui, qui semble sérieuse.
Oui, elle avait 16 ans et demi et lui, il en avait 20 ans. Moi, dès le départ, j'étais réticente parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'un garçon de 20 ans veut avec ma fille qui a 16 ans et demi, qui est assez pleine de vie, tout ça, mais un peu jeunette, enfin, encore pas. Il y a parfois des jeunes de 16 ans et demi qui sont très matures, mais ce n'est pas le cas de ma fille.
Oui. Voilà. Alors ça, c'est des choses qui arrivent assez souvent parce que la maturité est plus importante chez les jeunes filles que chez les jeunes hommes. Donc il arrive assez souvent qu'il y ait des relations amoureuses entre des jeunes filles et des jeunes hommes qui ont 2 ans, 3 ans de plus. Bon, ceci étant, on ne peut pas ignorer la loi non plus. On sait que votre fille est mineure et que ce garçon est majeur. Donc, ce n'est pas, c'est pas un détail. Enfin, ce n'est peut-être pas là-dessus que vous souhaitez jouer. Mais en tout cas, la loi existe et nul n'est censé l'ignorer.
Je lui ai rappelé la loi la dernière fois que je l'ai... Donc là, j'ai voulu lui reparler. À la suite de cette rupture-là qui a duré une après-midi où je l'ai vue vraiment très mal, ma fille. Et puis, ce qui me fait mal au cœur, c'est que dès qu'il lui dit « reviens », elle arrive, quoi. Enfin, elle dit oui, et puis voilà. Et puis chaque fois, je pense qu'il lui oblige à s'excuser. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, par...
Oui. Lui, quel type de jeune homme est-ce? Est-ce qu'il est étudiant? Il travaille? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie?
Il est étudiant, oui.
Et elle aussi, donc il y a une sorte d'affinité entre leurs parcours? Est-ce qu'ils se sont rencontrés dans ce cadre-là, dans le monde étudiant?
Je pense qu'ils se sont rencontrés un peu par les réseaux sociaux, avec des amis en commun et des choses comme ça.
Oui.
Voilà, et je me suis renseignée donc sur parce que là, en ce moment, moi, ça fait un mois que ça me travaille et que je dors pas trop. Et du coup, je me suis renseignée sur une ex-copine à lui. Et voilà, on m'a dit, c'est un pervers narcissique. Il veut enfoncer les autres pour se sentir mieux. Et voilà, quoi. C'est le témoignage que j'ai eu là aujourd'hui.
Est-ce que votre fille, elle arrive à dire qu'elle est malheureuse avec lui? Est-ce que c'est quelque chose...
Alors aujourd'hui, j'ai cherché dans sa chambre, j'ai trouvé un papier qu'elle a écrit où elle parle même de suicide. Donc voilà, ce gros collier en corde me tentera, ma mère est ma source de vie. Bon, ça c'est pas pour dire...
Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu le début du message, c'est de votre fille? Le début de votre phrase,
Si vous voulez, il y a marqué « Si je perds ma maman, alors ma vie est en danger. Ce gros collier en corde me tentera. » Voilà, et puis après, elle met « Je ne suis pas heureuse. » Les mecs sont tous des pervers. Je souffre, je suis mal. » Voilà, des choses comme ça. Ça, je l'ai trouvé aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle l'a écrit, mais ça, elle ne me le dit pas, non. Elle me dit que voilà, il a changé, puis ça ne se reproduira plus, puis si jamais il la rend malheureuse, elle le quittera. Mais moi, à mon avis, elle n'a pas la force de le quitter.
Ben, Ce qui est clair dans le message, dans ce qu'a écrit votre fille, c'est qu'elle a conscience d'une certaine répétition dans sa vie. C'est-à-dire, elle dit que ses ex sont tous des jeunes hommes qui la maltraitent. Manifestement, c'est plutôt bon signe. Elle a conscience de quelque chose de ce côté-là.
Oui, mais c'est pour ça qu'elle est dans sa tête. Elle n'est pas bien entre le bien et le mal aussi, je pense.
Alors ça, c'est une autre question. La question de... quand elle dit qu'elle a le diable en elle, c'est ça ?
Oui.
Oui, bon, ça c'est un autre sujet, mais déjà, pour puisqu'elle a conscience du fait de ne pas être heureuse et que c'est pas la première fois, ça c'est typiquement le type de sujet dont il serait intéressant qu'elle parle à un professionnel. Et donc pas seulement du côté de la, pas du côté de la psychiatrie cette fois, mais du côté de la thérapie, non ?
Oui.
Parce que là, manifestement, elle identifie un thème récurrent et il y a peut-être une faille chez votre fille qui fait qu'elle peut, comment dire, être dans une forme de demande d'amour envers des personnes qui la maltraitent. C'est ça qu'elle a l'air de dire à travers son message.
Oui, moi je pensais quand elle disait les mecs, c'était en général, mais oui, peut-être que vous avez raison. Oui.
Vous qui connaissez votre fille, que diriez-vous de sa personnalité ? Vous pensez que c'est quelqu'un de fragile émotionnellement ? Qu'est-ce que vous pourriez en dire ?
Non, jusqu'à maintenant, non. Elle était plutôt forte, rayonnante. Voilà. La joie de vivre et tout ça. Hein. Mais il l'a changé. Et oui, j'ai un autre endroit où elle met « Tu m'as changé, tu sais, tu m'as changé ». Je culpabilise de demander un pauvre crayon à un garçon. Voilà.
Vous avez une idée de ce que ça veut dire, demander un pauvre crayon à un garçon ?
Ben, c'est qu'elle n'ose plus s'adresser à des garçons devant lui.
Là, on parle de la jalousie.
Oui, là, il est hyper chaloux. Oui.
Oui. Oui, donc manifestement, c'est une relation qui la maltraite et qui la fait vaciller.
Oui. Oui, mais moi, je ne sais pas quoi faire. Parce que je lui ai dit, hein, à un moment, bon, j'ai craqué, j'étais en pleurs. Je lui ai dit, c'est un pervers, il va te détruire. Et ce qu'il faut, c'est que ce soit toi qui partes. Lui, il ne partira pas, il s'amuse de toi. Je lui ai tout dit ce que je pensais, ce que j'avais sur le cœur.
Et elle l'a entendu ? Voilà. Comment a-t-elle reçu votre discours ?
Elle écoute ce que je lui ai dit, mais... Après, je ne sais pas si elle l'écoute pour dire ben, « je la laisse parler » et puis comme ça, voilà. Elle me contrecarre pas. Hein.
Oui.
Non, elle me dit pas que j'y connais rien en amour ou des choses comme ça. Elle écoute.
Mais vous avez l'impression qu'elle n'arrive pas à prendre appui sur votre discours pour avoir la force de le quitter.
Non, mais là, elle ne veut pas du tout le quitter. Hein. Ah.
Et son père, quelle position prend-il dans la situation ?
Alors son père, on est séparés. Mmh. Je lui ai dit, voilà, il y a des problèmes depuis quelques temps. Il faisait la sourde oreille. Et puis là, je l'ai appelé ce soir. Mmh. Et bon, il va venir demain. Il va venir demain, puis on va en discuter.
Et quelle relation votre fille a-t-elle avec son père ?
C'est un peu distant quand même. C'est pas... Enfin, elle le voit souvent, mais c'est pas... Je sais pas comment vous dire.
Et avant, plus loin dans son enfance, c'était une relation tendre entre votre fille et son père ? Est-ce qu'il y avait une complicité ? Est-ce qu'ils étaient proches ?
Oui, oui, oui. Ben, il a toujours été assez proche d'elle, oui.
Et lui, c'est un homme doux ?
Il est un peu, je dirais, lunatique, oui. Lunatique, c'est-à-dire que tout va bien, puis d'un coup, tout va mal, tout va bien à nouveau. Enfin, c'est pas très... Oui, on peut pas trop savoir à l'avance, oui.
Et il était comme ça avec votre fille aussi ? C'est-à-dire qu'elle avait à faire face au saut d'humeur de son père ? Est-ce qu'elle craignait ses retournements d'humeur, justement ?
Je ne sais pas, je pense pas, mais bon, je ne sais pas.
Si je vous pose ces questions, c'est que ces questions-là, si jamais votre fille a de l'aide de la part d'un professionnel, c'est des dimensions qui seront interrogées. C'est d'essayer de comprendre quel est son rapport au masculin qui fait que dans sa vie se présentent des figures d'hommes qui la traitent pas bien.
Ouais.
Ça, c'est vraiment une question. Je crois, vous savez que c'est intéressant quand on observe une forme de répétition comme ça dans la vie d'une si jeune personne, d'aller assez vite en thérapie, parce que il y a une souplesse psychique chez une jeune personne qui fait qu'en général, c'est pas nécessaire de faire des thérapies très longues. Il y a ça qui apparaît. Il y a quelque chose à savoir des causes, de savoir quelles sont ses failles, ses blessures, pourquoi inconsciemment, parce que c'est toujours inconsciemment dans un premier temps, elle rencontre où elle va, où elle est dans une demande d'amour vis-à-vis de jeunes hommes qui la traitent pas bien. Ça, poser cette question jeune, c'est intéressant, parce que si elle peut guérir ça maintenant, ça signifie qu'elle peut être allégée de cette blessure et de cette mécanique pour la suite de sa vie de femme. Donc même au-delà de ce personnage-là qui est dans sa vie en ce moment, quand bien même il la quitterait demain et qu'elle en entendait plus parler, ça serait intéressant quand même qu'elle puisse traiter cette question afin que sa vie de femme puisse prendre une autre orientation, qu'elle puisse rencontrer d'autres figures d'hommes.
Oui, mais de toute façon, si il la quittait, elle serait très très mal et elle serait obligée d'avoir un suivi ou quelque chose. Hein. Ça, je sais qu'elle.
Et je dirais même, ce serait intéressant qu'il suivi avant, parce que le meilleur cas de figure, c'est que ce soit elle qui décide de le quitter, parce que quand quelqu'un peut dire en pleine conscience, je ne veux pas ça pour ma vie. Je ne veux pas être maltraitée de cette façon. Je mérite d'être heureuse et je désire rencontrer des hommes qui peuvent me donner un certain bonheur et pas me faire vivre comme ça dans cette torture morale. Quand c'est la personne qui choisit, elle reprend la main sur sa vie et c'est une occasion d'évoluer. C'est toujours bien plus puissant pour la suite plutôt que d'être séparée de force, d'opérer sous la pression sans avoir forcément fait le travail de conscience pour se déplacer psychiquement. Vous voyez ?
Oui, mais alors, quand on est les parents, il faut avoir les nerfs solides. Hein. Parce que moi, je la sens en danger, si vous voulez. Et elle doit partir, par exemple, camper une semaine avec lui. Alors, je me dis, pendant une semaine, parce qu'il se voit que le week-end, normalement. Donc, je me suis dit, en une semaine vraiment avec lui, c'est peut-être pour elle l'occasion de voir vraiment comment il est. Mais en même temps, moi, j'ai peur. Parce que je pense pas qu'il soit violent physiquement, mais on sait jamais.
Ce qui est embêtant,
moi,
pardon. Oui, allez-y.
Oui, je veux dire que c'est difficile, quoi. Et on se dit, mais jusqu'à quand je laisse jouer ça? Est-ce que je vais pas m'en vouloir de pas? Et puis en même temps, je sais que je peux rien faire parce que la séparer de force, ça sert à rien, quoi.
Vous avez des décisions difficiles à prendre, Geneviève, parce que effectivement, vous pouvez faire des choses dès lors que votre fille est mineure. Vous pouvez ne pas consentir à certaines choses. Vous pourriez vous opposer à ce qu'elle parte en vacances avec lui. Ça, vous pouvez. Mais la question qui se pose, c'est comment faire les choses de manière à ce que ça ne radicalise pas votre fille pour qu'elle devienne une sorte d'héroïne de l'amour malheureux et qu'elle persiste dans son histoire, mais qu'au contraire, elle puisse prendre, elle, conscience des choses et décider, elle, de sa vie. Je pense que... Enfin, je crois quand même qu'à l'occasion des vacances, là, une question se pose. C'est que quand on a un personnage comme ce jeune homme qui la traite mal, qui l'enferme, je comprends que vous ne soyez pas tranquille d'imaginer une semaine où elle dépende complètement de lui, où il n'y ait pas d'issue, elle n'est pas sur son terrain, elle est suspendue à ses humeurs et à ses actions. Donc je comprends que là, vous vous interrogiez.
Oui.
Et il me semble que peut-être ça vaut la peine d'en parler avec elle. Elle le sait, votre fille. J'imagine que dès lors qu'elle est mineure, il ne va pas de soi que...
Oui.
Est-ce que ça vous paraîtrait possible de lui dire, par exemple, écoute, moi, je ne veux pas faire usage de la force, utiliser la loi de façon abrupte, mais je trouve que, étant donné la nature de la relation, une semaine en vacances tous les deux, ça me paraît beaucoup, c'est pas rassurant, ça risque de te mettre en difficulté. Est-ce qu'il vaut pas mieux, en attendant que les choses s'éclaircissent dans ton esprit, de choisir des modalités de rencontre moins immersives, moins risquées pour elle?
Oui. Alors là, ce que j'avais prévu, c'est que son père y aille aussi, parce qu'il a un fils qui habite pas loin du lieu de vacances. Donc son père m'a dit que oui, il le ferait. Il irait dans la semaine.
Oui, ça paraît déjà une excellente idée. Et aussi parce que ça fait limite à cet homme, c'est-à-dire s'il voit que le père est là, légifère en quelque sorte, hein, parce que c'est le rôle d'un père de faire la loi, donc quand quelque chose est hors la loi, que ce soit la loi juridique ou la loi humaine, le père fait limite. Donc pour cet homme, de voir qu'il y a un père qui remplit sa fonction et qui met des limites à l'influence qu'il peut avoir sur sa fille, je pense que c'est tout à fait structurant.
Oui.
Alors, dans votre... Oui, allez-y, Geneviève.
Oui, puis bon, c'est pas à moi à tout porter non plus, parce que c'est difficile, oui. C'est pour faire voir aussi à ce garçon qu'elle a un père. Que le père, il est présent.
Exactement, et qu'il remplit sa fonction, qui est de faire la loi et de faire limite quand quelque chose dérape. Et d'ailleurs, puisque vous parliez de ne pas porter seul, je pense, comme on l'évoquait tout à l'heure, que c'est intéressant que votre fille soit en thérapie dès que possible. Parce que si vous avez un thérapeute qui parle avec elle, qui l'amène à des prises de conscience, il ne va pas essayer de l'influencer, mais de l'aider à réfléchir pour qu'elle-même puisse être dans une lucidité et prendre les bonnes décisions, ça va vous donner un appui, parce qu'il y a des choses, tout ne va pas reposer sur vous. Il y a un professionnel qui aidera votre fille à évoluer dans sa réflexion et ses décisions. Ça vous, je pense que c'est... Et puis aussi, comme votre fille est mineure, s'il y a un thérapeute, dans ces cas-là, les parents sont toujours dans le processus de thérapie. Quand on travaille avec un mineur, on fait les séances en tête-à-tête avec la jeune fille, donc puisqu'elle a 17 ans, mais les parents sont là, c'est eux qui décident de la thérapie, c'est eux qui acceptent que le thérapeute s'occupe de leur fille, qui font confiance au thérapeute. Donc il y a aussi des dialogues entre le thérapeute et les parents. Bon, d'une certaine façon, en présence de la jeune fille, il y a une éthique de la chose, mais ça vous permet d'avoir en la personne de le thérapeute une partenaire pour guider votre fille.
Oui. Là, c'est ce qu'on a commencé donc lundi. Et ils ont prévu 3 rendez-vous. Pour ensuite savoir ce qu'on allait décider.
Oui. Ben, je pense que c'est convaincre déjà votre fille d'aller en thérapie. Elle serait ouverte à cette idée, vous croyez ?
J'ai pas compris le début de votre phrase.
Est-ce que vous pensez que votre fille, elle est ouverte à l'idée de commencer une thérapie ? Pas seulement des soins psychiatriques, hein, c'est pas la même chose. Vous pensez qu'elle serait ouverte à cette idée ?
Ah oui. Mais là, il n'y a pas de soins psychiatriques, hein, c'est juste du dialogue. Hein. C'est elle qui m'a demandé de toute façon.
D'accord.
C'est elle qui m'a demandé, qui m'a dit, moi je ne vais pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma tête, il faut que je voie quelqu'un.
C'est formidable, elle a des ressources vitales, votre fille.
Oui. Oui, mais je vous dis, hein, avant elle était rayonnante, la joie de vivre et tout, et en un an, voilà...
Et puis, il y a ce que vous disiez tout à l'heure, cette question de cette thématique du diable en elle, c'est ça qu'elle dit. Hein. Vous voulez bien me redire ces mots exacts là-dessus ?
Alors, elle m'a dit, elle a eu l'impression qu'une dame, mais vraiment qu'elle a rencontré dans la rue, qu'elle a croisé dans la rue, lui avait jeté un sort et qu'elle était envahie par le diable. Et elle me dit, mais ça, je sais que c'est pas vrai, mais cette idée, j'arrive pas à me l'enlever de la tête.
Alors, dans ce que vous dites, bon, je pense que les professionnels ont dû vous en parler. Un élément différentiel pour s'inquiéter de savoir s'il y a une situation vraiment pathologique ou pas, c'est la question de la certitude. C'est-à-dire quelqu'un qui délire est dans la certitude absolue qu'il est possédé par le diable. Il ne va pas vous dire « je sais que ce n'est pas vrai ». Enfin, ça, c'est un petit repère clinique. Tant qu'il n'y a pas cette certitude délirante, on n'est pas sur les hypothèses les plus inquiétantes. Mais je pense qu'en revanche, ce qui se passe, c'est que votre fille sent probablement que un certain mal entre en elle à travers une relation qu'on peut quand même appeler toxique, c'est comme si un poison était en elle, parce qu'elle ne se reconnaît plus, elle n'est plus dans la même joie de vivre, elle est peut-être plus dans la même solidité intérieure, plus dans le même élan, peut-être que ça use ses forces vitales, peut-être ça lui donne des idées sombres. Donc il y a une sorte de, oui on peut dire ça comme ça, de poison en elle, et c'est la, peut-être la manière dont elle se l'imagine. Vous savez, ce qui nous arrive, on a tendance à le mettre en fiction, à le mettre en image. C'est peut-être la façon dont elle raconte les choses. Ce mal qu'elle sent en elle, elle dit que c'est comme si elle était possédée par le diable. Et peut-être que de dire que c'est une femme qui lui a jeté un sort, c'est une façon de protéger son amour. Parce que si elle dit que c'est une femme qui lui a jeté un sort dans la rue, c'est une manière de dire que ce n'est pas cet homme qui met le mal en elle. Donc c'est peut-être une façon inconsciente de protéger sa relation d'amour et de faire en sorte que, qu'elle trouve une cause externe à, au mal qu'elle ressent. Mais enfin, quand on formalise les choses comme ça, sous forme de thème diabolique, ça montre que même si elle ne rend pas directement cet homme responsable, elle est consciente de ce qui se passe.
Oui. Oui, elle s'était confiée à une amie, à elle, il y a quelques mois. Oui.
Ah oui, donc elle n'est pas totalement isolée dans l'épreuve.
Non, elle n'est pas totalement isolée. Bon, elle voit plus des filles, quoi, mais bon, c'est déjà bien.
Oui, bien sûr, bien sûr.
oui, elle s'était confiée à une amie à elle, et moi je lui ai téléphoné à cette amie, et elle m'a dit qu'elle était consciente de certaines choses.
Quoi, tout à fait.
Qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Exactement.
Et l'autre, ce garçon, et ben, puis c'est facile pour lui, là, il est plus âgé, il n'en est pas à son premier coup, et voilà, à chaque fois il la rattrape, et puis j'ai l'impression que chaque fois qu'il la rattrape, il la resserre un peu plus, quoi.
Geneviève, on va marquer une petite pause, le temps des informations. Vous ne quittez surtout pas, nous reprenons notre échange juste après le flash.
D'accord, merci.
À tout de suite.
22h minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Il est 23h05 sur RTL et si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus. C'est Parlons-nous, l'émission qui, en traitant la question de vie propre à chacun, fait ressortir des éclairages et des solutions pour tous. Et c'est ce qui se passe en ce moment, tandis que nous écoutons Geneviève qui est inquiète pour sa fille, qu'elle voit être dans une relation douloureuse, maltraitante même, avec un jeune homme de 21 ans, tandis que sa fille a 17 ans. Geneviève s'inquiète, s'interroge sur les mesures qu'elle doit prendre. Nous avons parlé de thérapie pour que sa fille puisse prendre conscience elle-même de ce qui lui arrive et évoluer aussi pour la suite de sa vie de femme. Et nous parlons aussi des symptômes qu'a pu avoir sa fille avec l'idée qu'elle puisse être possédée par le diable. Et on était en train d'échanger avec Geneviève pour essayer d'avoir quelques repères sur ce que ça pouvait signifier. Voilà, j'y arrive. Geneviève, vous êtes toujours là ?
Oui, bien sûr, oui.
Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez ajouter par rapport à ce qu'on a dit, ou des compléments ou des réflexions qui vous sont venues ?
Oui, alors moi, c'est ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il faut que je lui dise, il faut que tu le quittes parce que ceci, parce que cela, lui expliquer, ou alors pour faire confiance à la vie et puis se dire...
J'allais dire lui faire confiance à elle, c'est-à-dire de ses capacités de prise de conscience. Je pense que vous l'avez dû le remarquer déjà, ça n'est jamais efficace quand on dit à une personne amoureuse « tu dois quitter la personne avec qui tu es ». Parce qu'elle est partagée, c'est-à-dire qu'une part d'elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle sait que c'est une relation qui n'est pas saine, mais l'autre part d'elle, amoureuse, pour l'instant, ne parvient pas à concevoir sa vie sans lui. C'est le propre du sentiment amoureux. Donc, recourir à la raison pour dire « il faut que tu le quittes », c'est rarement efficace sur l'amour.
Oui.
Donc, je pense que c'est prendre patience et comme vous le dites à l'instant, c'est faire confiance, oui, dans la vie, enfin dans la vie en elle, dans les forces vitales qu'elle a. Et une thérapie vient toujours en appui des forces vitales quand elle est en thérapie et qu'elle est en dialogue avec un professionnel. Ça vient en appui des forces qui lui donnent envie d'être heureuse, d'aller bien, d'être bien traitée, de changer ce qui ne va pas dans sa vie. Je crois que c'est là le bon pari à faire.
Oui.
Et puis sur le dialogue avec vous, bien sûr.
Oui, oui, mais c'est une épreuve, hein. C'est difficile, c'est très difficile parce que, quand on voit ça de l'extérieur, on est clairvoyant, donc on sait exactement ce qu'il faudrait faire et puis on peut rien faire. Et puis je me dis, c'est le jour où elle va décider de se séparer de lui, vous savez, avec les téléphones maintenant, c'est très compliqué, quoi. Faudra plus lui. Que je lui enlève son téléphone, par contre.
Ça, je ne suis pas sûre, Geneviève, que procéder par la force, ça aide les prises de conscience et l'évolution. Je pense que le jour où votre fille sentira que ce n'est pas ce qu'elle veut pour sa vie, d'être avec cet homme-là, elle trouvera elle-même les moyens de faire obstacle à ce qu'il l'appelle. Alors peut-être pas tout de suite, peut-être qu'elle fera des allers-retours, ça c'est humain. Mais rien ne vaudra sa détermination à elle, parce que c'est difficile de la mettre dans un donjon.
Oui, je sais, mais il me semble que les séparations avant les téléphones portables étaient plus faciles. Parce qu'on avait le téléphone que le soir à la maison, alors que là, c'est en permanence.
Je crois, vous savez que le principal obstacle à la séparation, c'est pas la technologie, c'est le sentiment amoureux. C'est que votre fille soit amoureuse qui fait le plus gros obstacle.
Oui.
Et c'est ce sentiment-là qui est pas très accessible à la raison. Le « il faut, tu dois », c'est peu opérant. En revanche, ce sentiment-là, il peut être tout à fait infléchi, encadré par sa réflexion à elle et ses prises de conscience. Parce qu'il y a un sentiment aussi fort en elle que son amour, c'est le désir d'être heureuse et d'aller bien.
Oui.
Et là-dessus, c'est ça que la thérapie appuie. Donc vraiment, je pense que dans les piliers que vous pouvez avoir pour protéger votre fille, c'est le dialogue avec vous, ce dialogue ouvert qu'elle a à vous, elle se confie, elle ne vous cache pas ce qui arrive, elle ne s'isole pas. Donc ce dialogue, c'est très précieux. La thérapie du côté de ses propres prises de conscience et de son évolution de femme et son père. Parce que la fonction protectrice et légiférante du père, celui qui dit au-delà de quelle limite ça ne peut pas aller, ça c'est très important. C'est vraiment les trois piliers que vous avez pour que votre fille s'en sorte.
D'accord.
Mais je sais que c'est une épreuve pour les parents parce que vous avez l'instinct de protection d'une lionne, forcément, avec sa fille. Et vous vivez également une épreuve morale dans ce cas, comme tout parent en pareil cas.
Oui, je la sens en danger, donc c'est difficile, quoi. Oui, c'est sûr.
Oui. Geneviève, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles parce que les choses peuvent évoluer soit rapidement, soit lentement, on ne sait pas. Vous connaissez le numéro et comme tous ceux qui nous écoutent, 09 69 39 10 11.
Oui, mais je n'y manquerai pas.
Vraiment, ce sera avec plaisir.
Je vous remercie pour votre écoute, Sabine. Merci beaucoup.
Bon courage à vous dans cette trajectoire, Geneviève.
Sabine Calégari sur RTL. Parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Il est 23h14 et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez tout de suite. C'est Parlons-nous, l'émission qui vous invite à poser en direct toutes vos questions de vie, travail, couple, amour, famille, santé. Toutes vos questions sont bienvenues. Nous avons effectivement ce soir des sujets très différents avec Robert qui nous a parlé de l'AVC qu'il a subi et du trajet qu'il a à faire pour récupérer toutes ses facultés. Trajet qu'il fait avec des ressources médicales, mais aussi des ressources mentales. Et nous avons écouté Geneviève, une maman inquiète pour sa fille de 17 ans qui est dans une relation maltraitante avec un garçon de 21 ans. Nous avons échangé avec Geneviève pour envisager avec elle les solutions qu'elle peut avoir dans un délicat problème comme l'amour, sans forcément passer en force, mais aussi en veillant à protéger sa fille. Et maintenant, nous écoutons Suzanne.
Bon.
Bonsoir Suzanne.
Bonsoir Fabine, j'ai un petit peu peur, je vous le dis tout de suite.
Ah, ne vous inquiétez pas Suzanne, tout le monde est comme ça quand on se retrouve devant le micro.
Oui.
Et vous verrez, dans 5 minutes, vous allez oublier que vous êtes à la radio, vous serez simplement porté par notre dialogue.
Bah c'est gentil, c'était ma comme tout.
Voilà, ne vous inquiétez pas.
Alors, en même temps, je suis contente, enfin bon.
Bah oui, alors, je suppose que vous avez choisi d'appeler ce soir. Ça faisait un petit moment que vous souhaitiez nous parler.
Oh ben certes, oui, puis là j'ai craqué, puis j'ai dit bah, allez hop, j'appelle, je viens voir.
Un très bon craquage. C'est moins nocif que le chocolat en pleine nuit.
Comment ?
C'est moins nocif que le chocolat en pleine nuit.
Alors ben, écoutez, c'est formidable. Hein, moi. Bon, et donc...
Alors, oui, qu'est-ce qui vous soucie ?
Oh ben pas mal de choses, mais comment faire bien ? Donc alors je suis une dame, je suis déjà malvoyante, c'est pas terrible hein, comme solution.
Oui.
Comme solution, qu'est-ce que je suis bête, c'est pas terrible.
Oui, comme problème. Bah oui.
Comme problème,
vous
voilà,
voyez,
bravo.
Je vous arrête un petit instant Suzanne, c'est intéressant. Ce que vous venez de faire, c'est ce qui s'appelle un lapsus, c'est-à-dire qu'au lieu de dire c'est pas terrible comme problème, vous avez dit c'est pas terrible comme solution. Donc on peut supposer que du côté de votre inconscient, il y a un désir de solution et que c'est la solution qui vous oriente. Donc vous voyez, ça a l'air d'être une bêtise, mais parfois, vous savez, le principe, c'est que notre inconscient a besoin d'exprimer quelque chose, donc il pousse le mot conscient qu'on allait dire, il en met un autre à la place, c'est le lapsus, et vous avez parlé de solution au lieu de problème, donc au fond, ce qui vous anime, on peut supposer que c'est la solution.
Ah, c'est de trouver, oui de positiver.
Exactement. Exactement.
Mais c'est pas évident. Hein. Et alors, donc, j'ai un problème. Alors, autant parler de tous mes problèmes corporels. Donc, en même temps, est associé, j'ai eu un petit accident, je l'ai dit à Colin, enfin, très rapidement, alors, qui implique le corps dans son ensemble.
Ah,
donc,
oui.
J'ai tout crispé, c'est tout. C'est articulaire, allez hop, ça ira plus vite.
Oui, oui.
Donc, les bras, enfin, je vais pas dire des mots savants qui servent à rien, hein, NCB, machin, bon, bref, les bras, les jambes et les genoux, donc c'est tout crispé, c'est articulaire.
Vous avez
Partir, ça peut. Ah oui. Alors j'étais. Bah, c'était des accidents que j'ai eus. J'étais opérée du dos, enfin des bêtises comme ça. Ça peut aller mieux. Mais je me crispe en plus et je marche plus. Ou très peu.
Si je vous entends bien, c'est la névralgie cervico-brachiale, ça fait très mal, c'est ça.
Ah, bah, vous connaissez ça.
Oui.
Je voulais pas vous le dire.
C'est quelque chose qui fait très très mal. Enfin, ça vous prend le cou, les bras, et effectivement...
C'est la sciatique du cou.
Voilà. Mais oui, c'est ça, c'est très, très handicapant, et vous avez raison, ça s'accompagne de toutes sortes de contractures qui sont très douloureuses et qui altèrent la mobilité même, hein, certainement.
Oui, exactement, parce que... bon, alors j'ai parlé des membres inférieurs, c'est un petit peu pareil, des lombosciatiques, lombo-lombaires, enfin bon, voilà, ça fait mal, mais... J'avais réussi à aller un petit peu mieux, puis ça s'est fragilisé, j'en sais rien, j'ai rien fait, je me suis, je sais pas, enterrée, c'est pas très beau, je dis, mais bon.
Oui.
Bref, voilà. Et si on bouge pas, vous voyez, Sabine, si on bouge pas, bah, ça augmente. C'est bizarre, hein, ce que je vous dis, si on bouge pas,
oui, c'est très vrai.
Un tout petit peu, puis voilà, bah, je sais pas pourquoi, je me suis enterrée comme ça, et j'ai pas bougé, et puis, enfin, pas trop.
Peut-être que vous avez cédé à la souffrance, parce qu'effectivement, dans les moments, vous avez peut-être cédé à la souffrance. C'est que, effectivement, dans les moments où l'inflammation s'active, ça fait très très mal et on est tenté de chercher le confort de l'instant. Mais vous avez raison quand vous dites que la mobilité aide, enfin, le mouvement aide aussi à ce que les contractures ne se généralisent pas et qu'on se retrouve pas complètement tétanisé autour de sa douleur.
Tétanisé, oui, c'est le mot.
Bah oui.
Oui, et puis tétanisé au niveau de sa douleur psychique aussi. Hein. Parce que qu'est-ce qu'on souffre d'être comme ça aussi. Vous voyez, c'est en même temps... On en souffre de rien faire, d'être comme... C'est vrai. Moi, voilà.
Donc, quand vous dites que vous en souffrez, Suzanne... Est-ce que vous vous sentez coupable? Est-ce que vous vous sentez désespéré? Quel est votre sentiment par rapport à ça?
Ça fait mal. J'en souffre moralement, psychiquement. Il y en a assez. Je voudrais pouvoir faire un pas, deux pas, etc. Et quelquefois, je cède à je sais pas quoi. Alors, si je cède à
la douleur, peut-être tout simplement.
À la douleur, si vous voulez.
Ben oui.
Enfin, Moi, j'appelle ça pulsion de mort. Mais enfin, excusez-moi, c'est peut-être grand comme mot. Je cède à tout ça, quoi. Et puis voilà, et puis c'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout. C'est pas bien. Alors, je refais un pas. Alors après, je vais voir mon voisin. Je vous donne un exemple, parce que j'ai dit à Colin. Bon, parce que comme j'ai du mal à voir, hein, vous avez... Donc, je voulais partir, faire un petit tour et prendre le taxi qui n'est pas trop cher. Qu'il soit cher ou pas cher, enfin bon.
Oui.
Alors, je cherche un numéro que je ne vois pas. Je l'écris en très gros, je demande, je fais tout un pataquès pour avoir des numéros. Et puis, je ne le vois pas, je demande au voisin. C'est un exemple bébête. Mais il me crie dessus, il me crie. Je suis une saleté, une ordure. Et j'ai senti ça sans me défendre, comme si on m'avait... taper quand j'étais jeune, enfin, ou taper, ou moralement, vous voyez. Mais une horreur d'être abandonnée comme ça, d'être maltraitée, c'est moche, hein. Et ben, au lieu de me défendre et de prendre des distances, aucune distance, allez, ça m'est rentré comme dans du beurre.
Et quand vous dites que vous avez le sentiment que vous êtes laissé faire, est-ce que ça, vous pensez que c'est lié à toutes les souffrances que vous endurez? Parce que vous savez, quand notre énergie est prise par des douleurs, ça abaisse beaucoup nos défenses et nos ressources, et on n'a pas forcément l'énergie de faire front ailleurs. Est-ce que vous pensez que c'est par rapport à ça, par rapport à vos douleurs, ou vous pensez que c'est par rapport à votre histoire antérieure? Vous faites référence à votre enfance.
L'histoire, les deux, l'histoire que je vis en ce moment, enfin, ce que je vis, mes symptômes, enfin, et mon histoire antérieure, oui, bien sûr. Ah oui, mais pourquoi j'y étais, puisque je sais qu'elle est comme ça, mais pourquoi un petit gamin qui était sympa se met à hurler, crier, et faire comme ses parents, à projeter des méchancetés? Mais qu'est-ce que je suis bête? Non, mais sinon, je peux vous dire, je suis bête, Sabine, d'avoir fait ça.
Pourquoi vous dites ça? Quelle responsabilité vous vous attribuez à vous,
Suzanne? Je m'attribue la responsabilité. J'aurais pas dû leur demander, puisqu'elle est toujours comme ça. C'est une horrible bonne femme égocentrique, méchante, et qui aime bien faire du mal. Je fais du mal, donc j'existe. C'est pas mon truc, moi. Vous voyez?
Et
je vais faire communiquer un petit peu.
Est-ce que vous pensez que vous manquez de personne dans votre entourage? Est-ce que vous vous êtes tournée vers cette personne-là parce que vous n'aviez pas d'autre recours?
Voilà, c'est tout. Parce que j'ai téléphoné. Et puis, évidemment, au téléphone, ils ne peuvent pas me dire. Donc, je demandais deux petits numéros, là, c'est tout, qui étaient écrits. Je ne les voyais pas. J'avais écrit ça un petit peu n'importe comment, parce que je suis malvoyante.
Cette personne, bien évidemment.
Comment?
Ce qu'elle sait, cette personne, bien évidemment.
Oh, bien sûr, mais sans contre-fiche. Alors là, elle pense à elle, c'est tout, hein, ça, c'est sûr. Puis le petit garçon qui se met à hurler. Je travaille, mais à hurler, mais le petit, il est possible, il fait 14. Et à hurler, jamais il a fait ça. À hurler, mais qu'est-ce que c'est? Il fait comme ses parents. Donc là, moi, je l'ai mal senti, vous voyez. C'est un exemple que je vous donne. Je me suis sentie abandonnée, rejetée, plus que ça, même.
En fait, la solution, vous la donnez dans votre discours, c'est que je crois que ces personnes-là, il s'agit de plus du tout vous y confronter.
Ça c'est
voilà, de leur rendre ce qui leur appartient, c'est leur violence, c'est leur égoïsme. Bon, ça, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça dans leur vie, mais peu importe, ça leur appartient. Mais vous, effectivement, de ne pas vous y confronter du tout, parce que c'est impossible d'espérer qu'elles se réforment, qu'elles changent. Vous pouvez avoir un coup de chance, ou à un moment donné, elles seront un peu moins maltraitantes, mais il n'y a rien de bon à attendre de ces personnes-là.
Je le savais bien, mais j'étais toute seule. C'est la voisine d'à côté. Alors, qu'est-ce que vous voulez? J'ai cédé à la facilité.
Oui.
Il n'y a pas beaucoup de monde dans mon petit immeuble, là. Oui, là, mais il ne faut même plus leur dire bonjour. Moi, j'ai dit, non, je ne dis plus bonjour, c'est terminé. Voilà, rien du tout.
Oui, voilà. Et en dehors de cette voisine, qui vous avez autour de vous? Vous avez de la famille?
J'ai un chat qui est très mignon, un chartreux, mais enfin, bon. Je veux dire, il est mignon. Non. Souvent, j'écoute d'autres personnes, hein, Sabine. Et là, j'en ai marre. J'écoute au téléphone.
Oui.
C'est ce que je faisais un petit peu avant. Peut-être pas aussi bien que vous. Hein. Bon, et puis voilà. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Non, j'ai pas beaucoup de monde, sauf quelqu'un qui est malade. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je me pose tout. Je l'écoute, je lui parle, il est gentil. Je sens qu'il m'aime bien, mais il ne peut pas m'apporter quelque chose. Voilà, c'est tout. Sinon, j'ai pas grand monde. Hein. Il n'y a plus de personne en ce moment.
Est-ce que vous voulez dire que vous manquez d'amis, simplement?
Ah oui.
Vous aimeriez avoir des amis?
Ben oui, je n'ai plus tellement d'amis. Ils étaient un peu plus loin, il n'y a plus grand monde. Je ne peux pas y aller. Si on ne bouge pas, si on ne sort pas...
C'est vrai.
Non, mais c'est vrai ce que je vous dis. Bon, évidemment, j'ai un carnet immense. Je ne vais pas parler à, je ne sais pas qui, moi, un avocat, n'importe quoi, je vous dis n'importe quoi. Vous voyez, je n'ai pas vraiment d'amis. Voilà, j'en avais, j'en ai plus tellement, quoi, voilà.
Non, et c'est là vrai, aussi, pas d'amis. Vous
et dites... alors, c'est le plus beau cadeau de la vie, sauf que ce sont les relations humaines, moi.
C'est vrai, ça donne tellement d'énergie, c'est irremplaçable. C'est ce que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais.
Ah oui, c'est les relations humaines, alors... Bon, je voudrais descendre de mon quatrième étage sans ascenseur.
Ah, vous êtes au quatrième sans ascenseur ? Oui, ça n'aide pas.
Bah oui, quand on est... Mais non, mais c'est pas méchant ce que je dis. C'est parce que comme j'ai tellement mal, j'ai fait un exploit. Je l'ai fait deux fois. Pendant trois... Deux fois, j'ai fait 100 mètres, 150 mètres, 200 mètres. Puis j'ai été dans un... tout. C'est tout, mais ça fait... Non, c'est pas pour me plaindre, mais ça fait mal. Mais après, ça sera moins mal. Donc je pourrais aller dans un square, parler à droite, à gauche, je sais pas moi, qu'est-ce que je fasse d'autre. J'étais à la pharmacie, là, bon, c'est pas terrible. Bon, là, j'ai rien fait. Ça va pas, il faut que je recommence tout, comme si j'avais deux ans.
Il me paraît clair que ce qui peut casser le cercle de la solitude, c'est que vous retrouviez effectivement une certaine mobilité. Voilà, exactement. Pour les NCB, les douleurs articulaires, etc., vous êtes suivie ? Vous êtes aidée ?
Ben, j'ai ma rhumatologue, là. Oui, elle est sympa. Mais enfin, bon, vous savez, c'est sous les kéfaces, c'est à moi de faire des trucs. Non, je ne peux pas aller voir le kiné, il est trop loin. Bon, alors, c'est, de toute façon, j'ai trop mal. Il me dira, allez, hop, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse ? Vous avez trop mal.
Ben, les disciplines qui fonctionnent bien pour ce type de douleur, c'est l'ostéopathie.
Ben, oui, mais alors, j'ai tellement mal que j'ai... Vous savez, il y a l'ostéopathie douce, puis je ne sais plus les noms exacts. Hein,
c'est l'ostéopathie plutôt tissulaire qui convient avec...
Voilà, bah,
effectivement.
Il faut trouver. Hein.
Oui. Vous êtes dans une petite ville, vous avez...
Moyenne ville, oui, pas loin de Paris, mais enfin, il doit y avoir des ostéopathes, mais c'est structurel, je crois, je ne sais plus, excusez-moi, je ne me rappelle plus des noms. Il y a des douces, machin, trucs, mais je ne sais plus.
Je crois que ça vaut vraiment la peine, parce que sur ce type de pathologie-là et de souffrance-là, l'ostéopathie, la manipulation douce, effectivement...
Douce, en vrai, douce.
Oui, alors certains s'appellent fasciathérapeute, c'est de la fasciathérapie, c'est de l'ostéopathie tissulaire, mais de toute façon, si vous parlez avec un ostéopathe et que vous lui dites que vous souffrez de NCB, de douleur articulaire, etc., vous verrez de contracture, vous verrez tout de suite s'il connaît et il vous expliquera ce qu'il fait. Quand il vous voit la première fois en consultation, il vous dit que ce sera des manipulations tissulaires.
C'est sûr que je lui dis, mais vous savez, je me contracte parce que je majore ma douleur par l'angoisse que j'ai, enfin je veux dire angoisse pour parler vite. Je suis angoissée, ça va pas. Moi, je me crispe. Hein. J'ai une tendance à me crisper aussi.
Oui, et puis vous avez raison quand vous dites le stress augmente les états inflammatoires. Ça, c'est vrai. Ça crée de l'acidité dans le corps et ça augmente l'état inflammatoire. Vous avez raison de dire que l'angoisse a tendance à aggraver les choses. Mais vraiment, réfléchissez-y à l'ostéopathie, explorez, parce que parfois, on ne trouve pas tout de suite le bon praticien. Mais ça, je sais que sur ce type de douleur, ça, c'est un accompagnement qui peut vraiment, vraiment aider.
Oui.
Vous redonner de la mobilité, détendre, et puis dans une prise en charge au long cours, on peut faire vraiment des gros, gros progrès par rapport à ce dont vous souffrez.
Ah bah oui, parce que je pense que je peux m'en sortir, mais là, je me bloque moi-même, hein, finalement.
Bah, disons que c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, c'est-à-dire plus vous avez mal, plus vous vous repliez sur vous, plus vous vous sentez seul, et plus vous sentez seul, plus vous êtes angoissé, donc plus vous avez mal, oui.
Et sur moi aussi.
Oui.
Ou alors je parle, mais je ne sais pas, bon, bah, c'est bien le téléphone, mais enfin, non, je ne vous parle pas de vous, là, excusez-moi. mais non, Sabine, mais c'est ce que vous voulez. Moi, ce que j'aime, c'est vrai, les relations humaines. Alors, dans mon petit square, bah, je sors comme tout doucement avec une canne pour ne pas tomber. Et puis, parler à des gens, dire n'importe quoi, parler de bah oui, en plus de l'ostéopathie. Mais il faut le trouver, l'ostéopathe.
C'est vrai. Ça, parfois, on cherche, parfois, on tombe tout de suite sur la bonne personne. Parfois, il faut en essayer plusieurs. Mais vous savez, en même temps, comme c'est un accompagnement long cours pour ce que vous avez, vous serez accompagné progressivement pour retrouver du confort et de la mobilité. Je crois que ça vaut vraiment la peine. C'est l'enjeu d'un accompagnement qui peut être sur un certain temps, puis quand d'autres douleurs arrivent, votre ostéopathe vous connaît, il les traite. Donc je crois que ça vaut la peine d'investir dans cette recherche.
Oui, il faut le trouver.
Oui, exact. Exact. Je lis, Suzanne, des messages de soutien. Il y a Laurence qui vous remonte le moral en disant elle a de la chance d'avoir un peu d'amis. Moi, je suis seule
non,
et je n'ai aucune amie.
J'en ai peu d'amis. Excusez-moi, j'écoute Laurence.
Oui, voilà. Elle disait ça, que vous aviez de la chance d'avoir un peu d'amis et qu'elle, elle n'en a aucune. Donc, elle semble savoir ce que c'est que souffrir de solitude.
Ah bah c'est sûr. Hein.
Vous parliez, je vous ai bien compris, Suzanne, vous parliez d'amis que vous aviez au téléphone.
Mais oui, parce que je ne peux pas aller les voir, et puis ils sont là, ils ne sont pas là, puis oui, non, c'est plutôt au téléphone en ce moment, c'est oui, voilà, non, j'ai... Mais écoutez, Laurence, je lui envoie toute mon amitié, si elle veut de moi, je veux bien parler avec elle, c'est pas grave ça. Ah bah oui, moi j'aime bien les échanges aussi comme ça. Bah non, faut lui dire, oh, ça m'embête que j'aime pas voir les gens souffrir.
Oui, qui sont là. Oui, effectivement, la solitude, c'est un mal qui peut toucher beaucoup de personnes dans différentes situations. Et au moment où on est seul, on a l'impression que c'est sans issue. Mais on sait qu'il s'agit de casser le cercle quelque part.
Voilà. Casser, mais pas avec des imbéciles. Excusez-moi, j'ai dit imbécile. J'aurais voulu dire un autre mot par rapport au voisin, mais je le dirai pas parce qu'il est trop gros. et puis voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, j'aimerais bien pouvoir parler à des personnes aussi, moi, mais pas trop les écouter comme une psy. Hein. Ça, j'en ai fou.
Oui, ça, il y a des métiers pour ça. Et pour le reste, c'est mieux que ça soit dans la réciprocité.
Oui, c'est ça. Mais oui, alors.
Et sinon, Suzanne, qu'est-ce que vous aimez, vous, dans la vie? C'est-à-dire
ah,
que
bah, moi,
si
bah,
vous
moi,
avez des
la,
amis, qu'est-ce que vous aimez?
Vous savez, j'aimais la psycho. Bon, là, oui. Ça va, on laisse tomber.
Oui, j'ai entendu que vous parliez de pulsion de mort, c'est un terme assez spécifique. De pulsion de mort, c'est un terme assez spécifique.
Ah, bah, oui, mais écoutez, oui, j'ai travaillé avec des...
Vous avez lu Freud, peut-être?
Oh, plus que ça, j'ai travaillé, mais je ne dirai pas qui. Mais je l'ai dit à Colin, vous n'avez qu'à lui demander.
Non,
mais j'ai fait beaucoup de choses comme ça, mais maintenant, bon, bah, ça va. Puis la personne que vous connaissez, eh ben, elle était simple comme bonjour. Elle s'appelait Françoise. Non, mais vous lui demanderez, vous la connaissez. Et t'es gentille comme tout. J'ai fait que ça. Hein. Moi, j'ai commencé, j'avais 15 ans. Je faisais des groupes. Rogers, machin, puis hop, plus que Freud.
Oui.
Mais bon, bah, ça va.
Et Suzanne, est-ce que ces expériences avec les disciplines psy, donc voilà, vous parlez de Rogers, donc d'écoute active, vous parlez de différentes expériences manifestement, est-ce que ça vous a aidé à vous connaître et de savoir ce qui vous porte comme désir dans l'existence, quelles sont vos passions, ce qui pourrait faire lien avec les autres? Est-ce que ça vous a aidé à être dans une connaissance de vous?
C'est pas parce que j'aimais ça, mais bon, c'est surtout les thérapies, hein.
Oui.
Les thérapies aussi, mais je vais pas dire que j'ai fait une psychanalyse, hein, vous allez pas me croire.
Pourquoi pas? Pourquoi je vous croirais pas, Suzanne?
Oh, bah, je dis ça pour vous faire sourire, parce que j'aime bien sourire, c'est un peu artiste aussi. Non, alors, j'ai fait du piano, je suis pianiste, mais
oui.
Là, que si vous voulez, je vois pas, puis j'ai pas envie, puis j'ai mal au bras, alors c'est pas la peine.
Oui, c'est vrai que c'est pas idéal.
Piano, promenade, j'adorais ça, moi. Si je pouvais aller dans la forêt de Saint-Germain, tout le monde connaît, 10 kilomètres, qu'est-ce que je serais heureuse de sentir, vous voyez, avant je le faisais. Mais là, il faut le faire tout doucement. Et c'est surtout
c'est
ne pas désespérer, ne pas... Oh, ces gens-là... Puis tomber sur des gens négatifs, je ne les supporte plus. Puis j'ai plus envie de les supporter et faussement les écouter, ça ne sert à rien du tout.
C'est vrai. Ce que j'entends, Suzanne, c'est que vous avez beaucoup d'énergie dans votre voix. Vous avez l'air de vraiment vouloir vous élancer à nouveau dans la vie. Donc, je pense qu'il y a simplement à être sur les ailes de votre énergie et sortir, effectivement, vous le dites vous-même, de l'isolement. C'est le petit effort au départ pour que, petit à petit, vous puissiez à nouveau entrer dans une vie sociale. Et manifestement, vous êtes quelqu'un de très liant, donc les choses devraient se faire assez naturellement.
Ah, c'est mon corps qui me... Je crois, hein, peut-être que je... C'est mon corps là qui me bloque.
Alors, heureusement, Suzanne, d'après ce que vous en avez dit, vous n'avez pas de choses graves, dégénératives. C'est très douloureux, c'est handicapant, mais ce n'est pas de nature à vous immobiliser inéluctablement.
Ah ben non.
Donc là, je crois que ça.
Par contre, les yeux, c'est foutu, hein, ça, on peut vous le dire.
Oui, ça.
Ah oui, malgré la solution, je vous ai dit, mais c'est foutu.
Oui. Eh bien, Suzanne, j'espère que vous allez rencontrer déjà le bon thérapeute pour, je pense, un ostéopathe ou peut-être un kiné ou un autre, déjà pour alléger vos souffrances et puis que vous puissiez à nouveau vous élancer dans la vie, parce que ça a l'air d'être votre mouvement naturel.
Les relations humaines. Les
oui,
relations
exactement. Humaines. Eh bien, Suzanne, je vous souhaite un bel été. Ça se prête, oui. Ça se prête aux sorties. Donc, courage à vous et puis n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles.
Mais oui, alors, je peux faire une demande. S'il y a quelqu'un qui veut me parler, allez-y, donne mon numéro au texte tout de suite, hein, moi.
Alors ça, on transmet au standard et si vous voulez les rappeler pour savoir si des personnes vous ont communiqué elles aussi leur numéro, n'hésitez pas. Donc je rappelle le numéro pour tous, 09 69 39 10 11 10 11.
L'écriture aussi, ça me manque, j'ai toujours écrit. Je disais quand j'étais petite, créer, c'est exister.
Oui. Eh bien, belle continuation à vous, Suzanne. Bon courage et bel été.
Moi qui vous remercie de m'avoir écoutée.
Avec plaisir.
Alors, c'est vrai que je peux demander que des gens puissent me rappeler et que je les écouterai, je parlerai, je vivrai.
En tout cas, vous pouvez tout à fait rappeler le standard et voir s'il y a eu des mises en relation directes possibles. N'hésitez pas, Suzanne.
Sabine Calégari sur RTL. Parlons-nous. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
23h41, bienvenue si vous nous rejoignez maintenant. C'est Parlons-nous, l'émission qui, en traitant vos questions, essaie de vous donner des clés pour les résoudre à la lumière de la psychanalyse, à la lumière de nos échanges et aussi des témoignages, de soutien, des réflexions de ceux qui nous écoutent. Le téléphone 09 69 39 10 11, vous pouvez encore nous appeler pour un petit quart d'heure. Vous pouvez aussi nous écrire par SMS 64 900 code RTL. Et nous accueillons Daniel. Bonsoir Daniel.
Bonsoir.
Eh bien, je vous écoute. De quoi souhaitez-vous nous parler ?
Malheureusement, de quelque chose qui m'affecte beaucoup aujourd'hui, c'est une rupture.
Oui.
Une rupture qui n'est bon, qui est pas tout à fait consommée, mais qu'on m'a annoncée comme ça. Et puis, j'ai été... Si vous entendez du bruit, c'est un petit chien là, qui fait le fou devant moi.
Oui.
Et cette rupture, elle m'a été signifiée comme ça dans une conversation, parce que j'ai posé la question, et puis on m'a répondu « Ah bah oui, puisque la question est posée, ça tombe bien, parce que j'y pense depuis un bout de temps, mais je ne savais pas comment te le dire, mais tout compte fait, oui, moi, ma vie ne me convient plus, et je voudrais me séparer, et puis voilà. »
En posant votre question, Daniel, vous aviez l'intuition de ce qui allait être répondu
C'est quelqu'un qui n'était pas avant dans une attitude comme ça d'énervement. C'est une personne très posée, très calme, très digne. Et puis là, je sentais qu'il y avait de l'agacement, des choses comme ça. Je me dis, bon, c'est bizarre. Et comme moi, je suis quelqu'un plutôt, de différent, c'est-à-dire plutôt nerveux, qui s'emporte un peu à chaud comme ça. Et c'était tout mon contraire, quoi. C'était ma moitié, mon contraire, mais c'est toute ma vie, quoi. Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, voilà, c'est dur.
Oui.
Mais bon, ça s'est passé vendredi soir, les jours passants, je rumine tous les jours, j'ai du mal à me sortir de ce pas, et je me dis que j'ai plein de choses à reprocher. Et c'est vrai que, bon, ça m'arrive sur le coin du nez, puis que c'était peut-être prévu comme ça, quoi, voilà.
Daniel, vous avez l'impression que c'est irrémédiable ?
Je sais pas. Enfin, je pense que quand femmes prennent une décision des fois comme ça, c'est pas, elles ont du mal à revenir ou je sais pas, j'y crois pas trop. Puis ce serait comme peut-être un aveu de faiblesse vis-à-vis de moi ou d'essayer d'être avec moi parce qu'elle voit que je suis malheureux. Ça, je le supporterai pas non plus. Enfin, c'est ambigu, vous savez, tous ces genres de situations comme ça. Aujourd'hui, je lui dis, j'étais dans la position du mauvais côté, quoi, et qu'elle était du bon côté puisqu'elle était déterminée, tranquille, enfin tout ça. Bon, elle n'aime pas quand je lui dis non, de toute façon, maintenant tu n'en as plus rien à faire de moi. Elle dit non, tu comprends pas. Elle dit j'ai plus d'amour de quelqu'un d'amoureuse. Elle dit je t'aime, mais je ne suis plus amoureuse. Voilà, il faut que tu comprennes. Et je lui dis non, j'arrive pas à le comprendre parce que.
Et pourquoi le sentiment amoureux est parti ? Effectivement, ça s'entend. Bon, ce qu'elle vous dit, c'est qu'il y a l'attachement d'un être humain à un autre, mais c'est le sentiment amoureux, la vibration amoureuse d'une femme pour un homme dont elle a l'impression que ça a disparu. Mais elle vous a dit pourquoi le sentiment amoureux était parti ?
Alors elle me dit qu'elle a ressassé tous les problèmes qu'on a traversés. qu'elle les a ressassées, que ça revient tout le temps, qu'elle s'aperçoit que voilà, elle a été obligée de faire plein de choses pour moi. Et puis, moi, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai complètement changé. Je suis devenu quelqu'un, quand même, de beaucoup plus calme, de posé, qui ne boit pas d'alcool, qui ne boit plus d'alcool, qui. Voilà, je. Mais. Elle a du mal à se détacher de tout ce qui nous est arrivé. Et elle pense aussi que j'ai été trop laxiste dans l'éducation des enfants. C'est-à-dire que voilà, je suis tout son contraire. Elle aurait voulu plus de rigidité, plus de cadre. Et elle a dit que moi, je suis quelqu'un qui n'est pas comme ça. Donc, qu'aujourd'hui, bah, ça colle plus à sa vie parce que elle a laissé faire tout ça. Mais moi, j'ai laissé faire beaucoup de choses aussi dans l'autre sens. C'est que depuis 5 ans, elle s'est engagée dans un travail où elle travaille tellement et énormément qu'elle était fatiguée, beaucoup fatiguée. Et moi, j'étais toujours dans ma vie normale. J'ai essayé d'aider au maximum. Puisque, oui. Bon, que ce soit pour le ménager, lui préparer ses repas, tout ça, parce que je voulais toujours qu'elle puisse manger normalement, alors que bon, elle pouvait pas, parce qu'elle était tout le temps sur le boulot, même pendant les vacances, l'ordinateur sur la table, avec tout le boulot qu'il y avait à faire. Oui. Moi, j'ai laissé passer tout ça, je m'en veux aujourd'hui, parce que j'ai laissé dégrader notre situation. Puis par rapport à un fils que j'avais aussi d'un autre mariage, qui a amené aussi, parce que lui, il a été beaucoup perturbé, parce que c'est pas sa mère qui l'a élevé, c'est moi, avec cette femme. Et puis, elle a subi beaucoup de choses, parce qu'il se faisait renvoyer des écoles, parce que, voilà, il rentre à n'importe quelle heure, il dit qu'il rentre, il rentre pas. Aujourd'hui, il a 23 ans, mais il est toujours pareil, il est pas stabilisé, mais bon, il a bien compris là, que c'était grave pour moi, et il m'a dit, papa, mais je veux pas lui dire non plus que c'est à cause de lui, c'est pas à cause de lui, c'est à cause de moi aussi. Donc, je lui dis qu'elle était la cause de ma douleur, c'était moi, mais elle en était l'instrument. J'ai dit, c'est le contraire. Je veux pas t'en vouloir, mais bon, voilà. Et aujourd'hui, je souffre énormément parce que je lui ai dit, mais t'es plus que tout pour moi. C'est-à-dire que elle m'a permis d'être ce que je suis.
Vous n'arrivez pas à vous penser sans elle.
Non. Projeté parce que on a construit beaucoup de choses, on a fait beaucoup de choses. Et puis voilà quoi. Et je n'y arrive pas quoi. Enfin, ça m'emmerde.
Mais là, votre femme, elle est encore auprès de vous, elle vit auprès de vous, elle a quitté votre domicile. Donc vous avez accès à elle.
Elle est partie chez une amie, là, prendre l'apéro, parce que j'ai une autre amie qui est séparée. Donc ce soir, elle se faisait l'apéro dans une maison plus loin. Là. Donc elle m'a dit, elle a pris une bouteille pour qu'elles aillent ensemble. Voilà, si je n'avais pas trop envie qu'elle y aille non plus, mais bon, je veux ni la contraindre, ni l'empêcher de faire quoi que ce soit.
Oui, je crois que c'est pas là que ça se joue, effectivement.
Non.
Mais en revanche, elle est encore auprès de vous, donc ça signifie que vous avez accès à elle si jamais vous souhaitez parler ou essayer d'explorer s'il y a encore des possibilités dans votre couple. Vous, je suppose que c'est ce que vous souhaitez, éviter la rupture.
Ah, moi, je veux pas de rupture, mais je veux pas non plus l'empêcher de vivre. C'est-à-dire me dire à chaque fois, à chaque jour, me dire, j'ai empêché de faire sa vie. Moi, j'ai 60 ans, elle a 47 ans. Je me dis peut-être que si c'est la différence d'âge, elle ne se voit pas, parce que moi, je fais jeune, quoi. Bon, j'ai pas de séquelles physiques, quelles qu'elles soient. J'ai pas de problème de santé, rien du tout. Je continue à travailler.
Daniel, à travers ce que vous me dites, j'ai pas l'impression comme ça à première vue que ce soit la différence d'âge qui pose problème. Moi, ce que j'entends des éléments que vous donnez, c'est que il semblerait que l'amour de votre femme, le sentiment amoureux, hein, pas l'attachement, l'amour de votre femme se soit usé au fil des épreuves de vie qui l'ont en quelque sorte désenchanté. L'impression qu'il y a une usure sur le sentiment amoureux. Bon, vous avez évoqué la question d'alcool, vous avez évoqué le fait que parfois vous ayez eu le sentiment d'être brusque avec elle. Vous disiez que vos caractères étaient différents. Moi, il me semble que l'hypothèse la plus probable, c'est que ces heurts successifs aient usé le sentiment amoureux et qu'elle arrive dans un état où elle est attachée à vous, mais elle se sent désenchantée.
Oui.
Ça vous paraît juste ?
Ça me paraît très juste, c'est vrai. Mais je suis tellement malheureux, je vous dis que des fois, j'ai du mal à faire la différence entre ce que je peux comprendre et ce que j'essaye de ne pas comprendre. Vous voyez, j'ai un rejet parfois d'une chose qui est évidente, et puis en même temps, je suis obligé de l'accepter. C'est ça que j'ai du mal. Alors, tout ça, ça se bagarre dans ma tête depuis vendredi. Alors, j'ai travaillé entre deux. J'ai été voir des gens à qui j'en ai parlé parce que j'avais besoin. Et on m'a dit, voilà, c'est quand même... Vous, c'est pas possible, quoi. On me dit à chaque fois, parce que vous n'avez pas donné le reflet d'une rupture depuis très longtemps qu'on vous connaît, tout ça. Je dis, bah oui, non, c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment de choses qui pouvaient dysfonctionner au point.
La question, Daniel, c'est tout ce qui procède du sentiment amoureux, ça, c'est vraiment ce qui appartient à l'intimité d'un couple. Quand on voit un couple fonctionner sur le plan social, un couple manifestement attaché l'un à l'autre, elle vous l'a dit d'ailleurs, votre femme, on ne sait pas ce qui se passe au plan amoureux. Donc ça, c'est l'aspect qui est invisible, c'est vraiment l'intimité du couple. Donc je pense que même si le discours des autres personnes est précieux pour vous réconforter, ben, je crois que si vous souhaitez explorer les chances qu'il y aurait que votre couple ne se sépare pas, à mon sens, là où vous ne pouvez pas vous tromper, c'est en parlant de ce sentiment amoureux. C'est de dire à votre femme, j'ai bien compris que ce que tu m'as expliqué, c'est-à-dire que l'amour s'est usé au fil des heures, des épreuves, des déceptions, des duretés, des choses. Est-ce qu'il y a pour toi quelque chose que je puisse faire pour que ce sentiment puisse renaître? Je crois que c'est la seule question à lui poser. Et vraiment, lui poser en lui demandant quelles sont ses réponses à elle. C'est lui dire, j'ai bien compris que ce sentiment amoureux s'est usé au fil du parcours. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais devenir? Qu'est-ce que je peux changer pour que ce sentiment ait une chance de renaître?
Je ne sais pas si c'est... Si ce serait, j'ai du mal à croire que ce serait la solution. J'aimerais tellement que vous puissiez avoir raison de dire que si je lui demandais simplement qu'elle me donne la clé pour que je puisse.
C'est tout à fait ça. C'est la clé, ouais. Qu'elle vous donne la clé. Daniel, je comprends votre désespoir et je comprends qu'à travers la façon dont vous nous expliquez les choses, que vous pensiez qu'il y a peu de chance. Peut-être qu'il y en a peu. Mais en tout cas, je crois que vous n'avez rien à perdre. Parce que s'il y a une chance, c'est par là qu'elle se trouve. D'abord, sachez, vous le savez certainement, vous avez 60 ans, vous pratiquez votre femme, vous connaissez certainement le féminin. Mais une femme est toujours sensible au fait qu'on se mette à son écoute. Un être humain en général, mais particulièrement la sensibilité féminine. Donc le seul fait que vous lui disiez que vous avez compris ce qu'elle vous a adressé, ce qu'elle vous a exprimé, que vous avez entendu et que vous vous mettez à son écoute pour lui demander s'il y a quoi que ce soit que vous puissiez faire pour que votre couple ait une chance, c'est impossible qu'elle le prenne mal. Déjà, elle sera forcément émue. Elle essaiera, à mon avis, de vous répondre. Même si elle vous dit « Écoute, je pense que c'est trop tard », vous pouvez à ce moment-là lui demander, par exemple, « Est-ce que tu peux nous laisser 3 mois ? On a des années de vie ensemble. Je sais que que de redevenir amoureuse, ça ne dépend pas de la volonté, mais est-ce que tu serais prête à nous laisser 3 mois et à me guider pour, comme vous dites, donner les clés pour te rendre heureuse ? Et je te promets que si dans 3 mois, tu es toujours aussi mal, tu me dis toujours que tu n'arrives plus à éprouver de l'amour, je te laisserai partir et ça se passera très bien. »
C'est vrai. C'est vrai. Parce que je me dis que parfois, bon, il suffit. Quand je lui ai dit qu'elle était tout pour moi, elle a du mal à le comprendre. Elle m'a dit, je veux bien admettre que tu m'aimes, que tu tiennes à moi, mais quand tu me dis que je suis tout, j'ai dit oui, parce que je te l'ai peut-être jamais dit non plus. Parce que j'avais pas envie de te le dire, parce que je voulais pas, entre guillemets, je vais pas dire m'abaisser, mais je voulais pas montrer des signes comme ça où j'allais te dire en permanence, bah oui, t'es tout pour moi, je te l'aurais pas dit en permanence, même te le dire une fois de temps en temps, je l'aurais jamais dit, parce que je suis comme ça, j'ai pas un caractère, j'ai pas été élevé par des parents, c'est l'ancienne génération, hein, qui exprimait des sentiments.
C'est vrai.
On disait, j'aime moi mes enfants, je leur dis, je t'aime beaucoup, beaucoup de fois, beaucoup plus de fois que ma mère ait pu le dire, au moins une fois dans sa vie, mais elle me l'a jamais dit, donc j'ai été tranquille là-dessus. Et ces sentiments-là, je les dis pas, et quand je lui ai dit, là, l'autre jour, j'étais dans le dénuement le plus total. J'ai dit, tu peux pas comprendre que tu es tout pour moi. Mais ce qui s'appelle tout. T'as aidé mon bâton, ma lumière, celle qui m'a aidé à me relever, qui m'a aidé à traverser les mauvais moments, qui m'a aidé à faire plein de choses, à construire tout ce qu'on a aujourd'hui. Je l'ai construit, c'est la force que tu m'as donnée, sinon je l'aurais jamais fait. J'aurais été n'importe qui, n'importe quoi, puisque j'aurais peut-être sombré à jamais dans l'alcool et je serais peut-être même plus vivant. Donc voilà, ça a été une période difficile. C'est vrai, je l'admets, j'ai fait des erreurs tellement énormes que aujourd'hui je te demande pardon, j'ai pas envie de que tout se rendaille comme ça. C'est pas parce que je suis à l'aube de ma vieillesse, parce que j'ai 60 ans et que je me dis que je vais me retrouver tout seul. C'est même pas ça. C'est même pas ça. Je
m'en fous de ça aujourd'hui. Non, c'est que vous pouvez pas vous penser sans elle. C'est que, voilà, elle fait complètement partie de vous.
J'ai tout construit sur elle, autour d'elle, et j'ai tellement eu besoin de son épaule qu'aujourd'hui, si elle me l'enlève, je me sens vraiment très très mal. Voilà, je surmonterai, mais bon, c'est très, tellement difficile.
Vous savez, je vous ai
appelé ce soir parce que j'avais besoin, parce que des fois, j'écoutais sur l'autoroute quand je revenais le soir, et souvent, et j'écoutais cette émission, puis je me disais, bon, il y a des gens qui vont vraiment mal, quoi. Puis j'avais du mal, des fois, à comprendre qu'on puisse appeler la radio, et aujourd'hui, c'est moi qui l'appelle.
Vous avez vraiment... Ah, bah, écoutez, c'est avec joie. Vraiment, on est très heureux de pouvoir être là pour toutes les questions et aussi pour ce type de chagrin. Et je vous écoute, Daniel, je pense que vous avez un discours extrêmement émouvant, c'est très beau ce que vous lui avez dit, mais il me semble que vous pouvez ajouter quelque chose. Vous lui avez dit à quel point elle compte pour vous, à quel point elle est dans une position d'exception dans votre vie. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que pour vous, votre femme n'est remplaçable par aucune autre. Mais vous savez, ce que vous pouvez ajouter, il vous faudra sûrement du courage, parce que quand on est dans le chagrin et la détresse, c'est pas forcément facile, mais c'est lui parler d'elle. Parce que là, c'est très précieux, vous lui avez parlé de vous, vous lui avez expliqué qu'elle est tout pour vous, que vous vous êtes appuyé sur elle, qu'elle est un pilier, un appui, un socle. Et je pense que c'est important aussi que vous lui parliez d'elle. C'est-à-dire de quoi elle a besoin pour être heureuse,
elle a besoin que ce soit fluide. Elle me dit qu'elle n'est pas à avoir quelqu'un comme moi qui soit toujours sur la défensive, qui soit quelqu'un qui soit dans l'interrogation, qui soit quelqu'un méfiant, elle veut quelqu'un qui soit fluide. Elle me dit j'ai besoin de fluidité dans ma vie maintenant, j'ai pas envie de me poser de problème. Elle me dit j'ai pas besoin de quelqu'un, j'ai envie d'être avec ma fille, d'être tranquille. Voilà. Et puis, j'ai pas besoin d'avoir des interférences négatives. Donc, j'ai envie que ce soit tranquille et tout. Alors, je me suis dit, si je suis une interférence négative, ou si bah, le demi-frère de ma fille est une interférence négative, parce que bon, j'ai jamais été très, très dur avec lui, c'est vrai. Et puis, elle me dit, t'aurais plutôt tendance à être plus directif avec ta fille que tu ne l'as été avec ton garçon, mais je ne suis pas. Parce que je fais attention à ma fille, je lui dis ça, c'était aussi un côté où, du papa qui a peur, parce que j'ai eu deux garçons et ma troisième, c'est une fille, elle a 16 ans. Bon. Oui. Et c'est vrai que j'étais plus dans l'inquiétude, j'étais plus dans le questionnement et tout ça. Et elle me dit aussi que je ne l'ai jamais fait pour mon garçon, que je l'ai laissé faire ce qu'il voulait et tout ça, et que ma fille était beaucoup plus... pas strict, parce que j'ai pas de côté strict, j'y arrive pas, justement, j'ai jamais été quelqu'un qui était avec des choses bien bordées, bien, je sais pas faire. Donc, ça, c'est un reproche aussi d'être un peu sur l'aléatoire. Mais j'ai dit, je suis comme ça, j'ai pas, voilà. Et que j'aurais été un peu plus dur avec ma fille, quoi.
Oui. Alors, si vous lui dites « je suis comme ça », je comprends que vous le lui disiez, mais c'est comme si vous induisiez l'idée que vous ne pouviez pas changer. Et moi, je pense que s'il y a un message à adresser à votre femme, c'est que vous l'aimez tellement, elle est tellement irremplaçable, unique pour vous, que vous êtes prêt à changer pour elle, à changer tout ce que vous pourrez changer selon ses indications, les clés qu'elle vous donnera. Et là... Bon, s'il y a une chance que les choses puissent être sauvées, à mon avis, c'est par là, parce que vous le dites très clairement, ce qui a usé son amour, c'est la rudesse, en fait, parfois, du contact qu'elle avait dans le couple. C'est rude, ça heurte sa sensibilité, elle veut de la fluidité. Au fond, si vous pouvez manifester votre souhait sincère de changer pour plus de fluidité et que pour votre couple puisse vivre... Peut-être qu'elle pourra l'entendre et qu'elle acceptera de vous donner un certain temps. Oui, Daniel, vous êtes toujours là ?
Oui, je suis toujours là, je vous écoutais. C'est parce que ma fille, elle vient de rentrer, elle est au feu d'artifice. Elle rentrait.
En tout cas, oui. Je crois que vous souhaitiez nous parler dans la discrétion, mais peut-être penser à ce qu'on a évoqué ensemble. Je crois que vous n'avez rien à perdre. Et puis, au fond, si les choses peuvent vous amener, vous, à évoluer, ce ne sera pas un chagrin d'amour pour rien.
Non, Mais si vous voulez, les chagrins d'amour aussi, à 60 ans, c'est pas les mêmes qu'on peut avoir à 20 ans. On peut
souffrir,
se rouler par terre, pleurer. Mais à 60 ans, c'est pas la même chose.
Alors, on vous souhaite beaucoup de courage, Daniel. Prenez soin de vous et aussi prenez soin d'elle.
Merci beaucoup.
Au revoir, Daniel. Et nous finissons donc avec ce dialogue sur un chagrin d'amour et je vous retrouve demain en direct dès 22h. N'hésitez pas à appeler le numéro de Parlons-nous au 09 69 39 10 11. Nous recevons tous vos appels, ils sont tous bienvenus. Très belle nuit à vous.